Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 6h57, soyez tous les bienvenus sur RMC et RMC Story. C'est Apolline Matin qui démarre en direct jusqu'à 9h avec toute l'équipe, avec Manu Le Chypre qui va nous rejoindre, avec Charlène Villemer, bien sûr pour la météo très importante aujourd'hui. Bonjour Charlène.
Bonjour Sébastien.
Avec Victor Pourchet qui est là et qui m'accompagne tous les matins, et avec vous bien sûr au 32-16. On démarre la semaine ensemble avec cette information qui nous parvient ce matin. Situation globalement stable cette nuit en Gironde. Voilà la dernière information sur le front de ce méga-feu qui est toujours loin d'être éteint. 42 000 hectares brûlés, 220 000 évacués. Les flammes ne sont qu'à une quinzaine de kilomètres de l'entrée de Bordeaux. Et la canicule qui revient dans les jours qui viennent fait craindre le pire. Nos reporters sur le terrain, bien sûr, au plus proche. Tout au long de la matinée, on sera aussi avec nos invités. Dans 10 minutes, je passerai un coup de fil au maire de Marcheprime. 6 000 habitants, commune évacuée ce week-end. Le feu est aux portes de cette commune. On sera aussi à 8h40 avec le maire du Porge, ville au bilan terrible, 175 maisons détruites, c'est 20% des habitations qui sont à terre et parfois complètement détruites. Et puis on fera bien sûr le point à 7h40 avec l'un des porte-parole de la sécurité civile. Quelle est la situation sur le front? Qu'est-ce qu'on attend dans les prochaines heures? Est-ce que le vent peut encore menacer? Et surtout la canicule qui inquiète, puisque les températures vont grimper dans les toutes prochaines heures et dans les prochains jours. On va atteindre les 40 degrés sur place cette semaine. On va refaire un point bien sûr dans un instant. Le temps de vous dire que nous serons aussi avec un pilote de Canadair tout à l'heure. Sujet très intéressant, parce qu'on découvre que sur les 12 Canadair dont dispose la France, il n'y en a que 5 et 7 qui pouvaient voler ce week-end. Pourquoi? À cause de problèmes de maintenance. On y viendra. Comment on explique ça, la maintenance en plein été? Est-ce qu'on ne peut pas le faire en hiver? Je poserai la question à ce pilote de Canadair qui sera avec nous tout à l'heure. Ce sera à 8h40 et bien. Bien sûr, pardon, on vous attend au 32-16. La météo avant le journal de 7h, donc avec Charlène Villemer, et le sud-ouest toujours en proie aux flammes et la chaleur qui va revenir.
Et oui, et ce malgré une nuit plus douce et plus humide. Seulement 1 à 4 mm d'eau sont tombés en Gironde. Alors aujourd'hui, le vent va changer de direction, du nord au sud, et il va pousser vers l'ouest. Alors, ce qui est plutôt encourageant pour la région bordelaise, il est aussi en train de faiblir. Ce vent, on a 11 départements qui sont en alerte rouge à cause de cette pollution. La fumée est toujours présente partout ailleurs aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera du grand soleil. On aura quelques nuages localisés, notamment dans le Grand Est. Au niveau des températures, on va peiner à dépasser les 30 degrés, notamment dans le nord, 21 à 23 degrés près de la Manche, et puis jusqu'à 34 degrés près du pourtour méditerranéen.
La météo sur RMC avec la nouvelle caméra extérieure Omiris. Omiris, alarme et télésurveillance, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
C'est lundi et on vous accompagne sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal en direct, Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Une petite éclaircie ce matin. L'incendie en Gironde est resté globalement stable au cours de la nuit. On va vous donner les dernières informations de la préfecture. Nous serons aussi auprès des évacués à Bordeaux. 42 000 hectares brûlés en Gironde, 115 000 depuis le début de l'année partout en France, selon Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, qui parle d'un bilan tout à fait exceptionnel. Et puis Tadej Pogacar remporte son 5e Tour de France. Le Français Paul Sexas lui termine au pied du podium pour sa première participation à 19 ans.
Des nouvelles plutôt encourageante, même si on va rester prudent ce matin sur l'incendie autour du bassin d'Arcachon.
Et pour la première fois depuis le début de cet incendie mercredi, Rachel Sadoudine, vous êtes en direct avec nous. Des nouvelles données donc ce matin par la préfecture de Gironde.
Oui, la situation est restée globalement stable au cours de la nuit, sans évolution majeure à signaler. Ce sont les mots exacts du communiqué adressé aux médias il y a quelques minutes seulement. Et c'est la première fois depuis le début de cet incendie, il y a 5 jours, qu'aucune progression majeure n'est à signaler. Un véritable bol d'air pour le maire de Sestas, ville évacuée. Hier, il voyait les flammes arriver sur sa commune. Aujourd'hui, Jérôme Steff se réjouit de l'évolution favorable de la météo cette nuit. Il était en direct tôt ce matin au micro de nos confrères de BFM TV.
On a eu des conditions hygrométriques assez favorables. On a eu de la pluie. Voilà, c'est du baume au cœur d'arriver sur site et de voir les flaques d'eau. Mais les bonnes nouvelles, il faut pas les transformer en victoire. Vous savez que ce feu, faut toujours aussi se méfier. Je sais qu'il y a eu un gros coup de vent aussi à 3 heures du matin. Les colonnes sont en place. Elles sont maintenant uniquement en surveillance.
Des pompiers qui, selon Jérôme Steff, ont réussi à éviter les sautes de feu. L'incendie est, d'après le maire de la commune, resté contenu de l'autre côté de la départementale qui longe donc Cestas.
Précision de Rachel Sadodine en direct. La préfecture de Gironde qui annonce aussi avoir pris 2 arrêtés pour interdire les colonies de vacances et les séjours vacances pour personnes en situation de handicap, alors que l'incendie n'est qu'à une 15aine de kilomètres de Bordeaux, 42 000 hectares ravagés donc par les flammes, 220 000 personnes évacuées. Inès Zegloul, vous êtes en direct du parc des expositions de Bordeaux où les bénévoles s'activent pour aider les sinistrés.
Oui, vous l'entendez hein, peut-être derrière moi, le ronronnement incessant de ces immenses camions qui font un balai sur l'immense parking toute la nuit, toute la journée. Des packs d'eau sont déposés par centaines d'hangar en hangar, des médicaments, des vêtements, ce qu'il faut en fait pour ravitailler des milliers d'évacués qui se lèvent peu à peu de leur lit de camp à cette heure-ci. Partout, il y a des gilets fluorescents, ceux des bénévoles, des médecins, les infirmiers qui savent faire de bon matin. J'ai embarqué par exemple à bord de la camionnette de Maxence et de Lou, des petits yeux de fatigue après une nouvelle nuit sans dormir.
On est à bord d'un véhicule qui fait quoi? Qui fait du ravitaillement?
En gros, là, on est en train de transvaser tout ce qui a été donné par les gens qui sont un peu généreux, qui ont donné. Il y a beaucoup toute la denrée hygiène, après beaucoup de nourriture, énormément d'eau aussi.
On imagine que la nuit a été longue. Elle a été très très longue.
Avec les fortes chaleurs qui arrivent en plus, on redoute forcément que le feu reprenne de son ampleur un peu et que d'autres endroits du coup soient évacués et beaucoup se rabattent après de plus en plus vers Bordeaux.
Donc beaucoup de monde qui arrive ici.
Exactement.
Ici, la priorité, c'est accueillir tout le monde, prendre en charge aussi les plus anciens, ceux venus des EHPAD, par exemple. Des centres médicalisés de fortune ont été installés sous les néons des hangars. Impossible d'y accéder pour l'instant, puisque tous sont très fatigués, désorientés et prennent leur mal en patience, m'a-t-on expliqué.
Inès Zegloul en direct de Bordeaux pour RMC en Gironde où 84 pompiers ont été blessés. On le disait, donc c'est 42 000 hectares brûlés qui ont brûlé depuis mercredi. Le bilan des feux qui est déjà très lourd. Hein. Bilan tout à fait exceptionnel des mots du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, invité du 20h de France 2 hier soir.
Tous les jours, on a 30 à 40 départs de feu qui sont combattus simultanément. Au total, on est à 115 000 hectares qui ont été parcourus depuis le début de la saison, ce qui est tout à fait exceptionnel. C'est avec des feux qui se répètent un peu partout, qui sont combattus courageusement par les sapeurs-pompiers. On l'a vu dans le Var, on l'a vu à Biscarrosse. Et puis, il y a un méga-feu en Gironde qui est un feu encore plus inédit. Il n'a pas de cohérence, il va, il vient. Et donc, le calme et la détermination qui est la nôtre, c'est évidemment de le combattre. Ce combat au sol, par des moyens terrestres, il y a des moyens aériens. Et notre priorité, évidemment, c'est de sauver des vies humaines, d'où les 220 000 évacuations qu'il y a eu.
Et c'est au ministère de l'Intérieur qu'Emmanuel Macron présidera tout à l'heure à 10h une cellule de crise. Une autre réunion se tiendra au ministère de l'Économie pour trouver des solutions pour venir en aide aux secteurs touchés comme le tourisme ou les transports.
Et on vous attend, si vous êtes dans la région, si vous êtes en Gironde, on attend vos témoignages au 3216, vos messages aussi sur WhatsApp, si vous avez été évacué, si vous êtes pompier, si vous êtes soignant, si vous êtes secouriste, ou tout simplement si vous êtes là-bas et que vous essayez de donner un coup de main comme vous pouvez, ou si vous voulez simplement envoyer vos messages aux pompiers ce matin, on vous attend 3216. Le WhatsApp RMC, c'est le 0612 424 424.
Le trafic des trains interrompu au sud de Bordeaux, c'est une des conséquences de cet incendie. Impossible d'aller à Dax ou à Hendaye. La préfecture de Gironde incite même à ne pas venir dans la région. Mais les voyageurs qui ne peuvent pas reporter leur voyage essayent tant bien que mal de se débrouiller. Reportage d'Alexandre Thibault en gare Montparnasse à Paris.
Valise en main sur le quai, pas question pour Clément et ses amis de renoncer à leurs vacances à Hendaye. Leur train ne va pas plus loin que Bordeaux, alors ils font appel à un ami.
Avec l'aide de Peyo et de sa maman, on va quand même réussir à rejoindre Hendaye en voiture. C'est vrai que c'est un sacré périple.
Prêt à tout pour partir en vacances?
Oui, on peut dire ça, oui. Elle va nous récupérer, puis après, les vacances commencent.
Et puis, il y a ceux qui habitent, travaillent dans la région. Marika a les yeux rivés sur le tableau d'affichage. Avec ses enfants, elle veut rentrer à Biarritz.
Ce soir, on sait où dormir. On dort chez mes parents à Bordeaux. Heureusement qu'ils sont là.
Et au petit matin, pour rentrer chez eux,
on va essayer de trouver, je sais pas, un Blablacar, un Flixbus ou je sais pas. C'est fatigant, c'est un peu l'aventure, mais je relativise. On va se reposer. Et on verra après.
Relativiser, c'est ce que font Hugo et son père. Leur but, atteindre Osgore.
Ce soir, c'est un peu camping, ouais, on verra.
Ils ont changé leur billet de train.
Là, on fait un arrêt du coup à Tours. On s'arrête chez l'ami de mon père. On loge chez lui sur un canapé. Et nous allons reprendre la route en voiture avec l'ami de mon père. 5-6 heures de route, mais c'est pas de contrainte non plus. On va mettre de la musique, on va rigoler. Et voilà.
Et prévoir une playlist assez longue, le trajet est rallongé car certains axes routiers comme l'A63 sont aussi fermés.
Dans le sud-ouest, c'est la chaleur que l'on redoute dans les prochains jours face aux incendies. Dans le Var, c'est plutôt le vent, le mistral qui pourrait faire repartir le feu contenu par les pompiers. 4500 hectares brûlés, 2000 personnes évacuées qui ne s'attendaient pas à voir le feu durer aussi longtemps. Reportage de notre correspondante dans la région, Anna Jojard, dans la commune de Barjols.
Le téléphone de Mélanie, évacuée depuis vendredi, vient de sonner.
Ma sœur est en train de me dire que les camions de pompiers, comme ils sont enfin arrivés, ils ont pu stopper les feux à ras de la maison.
Si sa maison est sauvée, pour l'instant, ce n'est pas le cas de la bergerie de sa mère, détruite par les flammes.
Il y a des chèvres qui ont été sauvées, d'autres qui n'ont pas été sauvées. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar.
Un cauchemar qui dure depuis près d'une semaine.
Nous, chez nous, on voyait un panache de fumée au Bessillon. Mais on s'est dit, ça va faire comme l'année dernière, un feu qui va abîmer notre montagne. Et en fait, non, ça perdure. Ça perdure et ça se propage.
C'est anxiogène. On ne sait pas comment on va retrouver notre maison.
C'est très, très, très dur.
Dans la salle d'accueil, la fatigue se mêle à l'angoisse. Une habitante explose en larmes. Elle sera prise en charge par des bénévoles. Solange Donat est adjointe à la mairie de Barjols.
Il faut savoir les écouter, les réconforter, les rassurer. Et puis de leur dire, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer chez vous dès qu'on a le feu vert.
Un feu vert que certains confient ne pas vouloir attendre, prêts à braver les interdictions pour aller voir l'état de leur maison.
Reportage de notre correspondante dans le sud-est, Anna Jojard.
Il est 7h08 et vous êtes bien sur RMC à Berlin. Le suspect de l'attaque de la Gay Pride a été tué par la police.
Il était recherché depuis samedi soir après cette attaque à la voiture Bélier qui a fait un mort et 29 blessés. Un attentat terroriste islamiste dans la capitale allemande. C'est ce dont parle le ministre de l'Intérieur du pays, Maxime Clier-Ruzat du service police-justice d'RMC. C'est au moment de son interpellation que cet Allemand d'origine libanaise a été abattu.
L'homme de 21 ans avait été localisé dans un jardin ouvrier à l'ouest de Berlin et en voyant les forces d'intervention, le suspect aurait alors couru dans leur direction muni d'une arme blanche avant que les policiers ne lui tirent dessus, expliquent les autorités allemandes. La fin d'une chasse à l'homme de près de 24 heures après l'attaque survenue samedi soir à 22 heures. Le suspect Abdul Balout était considéré comme dangereux et connu de la justice pour sa radicalisation et son appartenance au milieu islamiste. Il avait d'ailleurs été condamné en mai dernier à une peine privative de liberté pour avoir tenté de rejoindre l'État islamique en Syrie. Il avait été arrêté au Liban avant d'être incarcéré 3 mois, puis renvoyé en Allemagne où il était resté 6 mois en détention provisoire dans l'attente de son procès. Les autorités allemandes qui estiment désormais que l'homme de 21 ans agit seul.
Maxime Clier-Ruzat. Et puis on a appris cette fusillade aux États-Unis à Seattle. 2 morts et 5 blessés, dont un enfant, dans donc cette fusillade qui a été annoncée il y a quelques minutes par la police sur place.
Allez, on termine avec le Tour de France et cette nouvelle démonstration de Tadej Pogacar qui a donc remporté son 5e Tour de France.
Oui, le Slovène à nouveau vainqueur de la grande boucle, même s'il n'a pas réussi à s'imposer hier à Paris sur les Champs-Élysées. C'est le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'est offert la dernière étape. Et côté français, le bilan est un peu mitigé, hein, pas de victoire d'étape, mais 3 coureurs tricolores tout de même dans le top 10, Kevin Morand.
Oui, et la tête d'affiche Paul Sexas, à la fois le plus attendu des Français tout en étant le plus jeune au départ, termine au pied du podium pour son premier Tour de France.
J'ai pu batailler pour le podium jusqu'à l'arrivée et c'est quand même déjà une belle réussite. Forcément, c'est un peu en deçà de mes ambitions. Faut gérer beaucoup plus de choses que sur les autres courses, mais j'ai appris aussi que j'en étais capable. C'est normal que j'ai encore de la marge de progression.
Derrière Sexas, Lenny Martinez prend lui la 5e place. Initialement, il ne courait pas pour le classement général, mais plutôt pour une victoire d'étape ou le maillot à poids.
Pour moi, c'est un tour au-delà de mes attentes. J'aurais jamais pensé faire top 5 sur un Tour de France. Moi, je regardais le Tour à la télé à l'époque et pour moi, c'était impossible. C'est un niveau tellement élevé.
Deux Français placés donc. En revanche, c'est seulement la 3e édition de l'histoire du Tour. Après 1926 et 1999, sans aucune victoire d'étape tricolore, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Il n'y a pas de victoire d'étape française, mais 2 Français dans les 5 premiers. Ça n'est pas arrivé depuis 2014. 3 Français dans les 10 avec Jordan Jegat. Ils ont été là, il leur a manqué parfois pas grand-chose pour gagner une étape.
Ce Tour aura donc été celui des promesses pour les jeunes tricolores. Alors que les punchers Julien Alaphilippe, Kevin Vauclin et Romain Grégoire étaient trop en méforme pour s'illustrer.
Et Tadej Pogacar lui rejoint le club des quintuples vainqueurs du Tour de France, donc aux côtés de Bernard Hinault, d'Eddy Merckx, rien que ça, à seulement 27 ans.
C'était le journal de Clara Gabillet sur RMC. Il est 7h11 et on est ravis de démarrer cette semaine avec vous, avec Victor Pourchet, Apolline Matin en direct jusqu'à 9h. Évidemment, on est tous marqués par les images qu'on a vues ce week-end, ces images terrible. Les flammes qui continuent, des images de désolation aussi. On sera tout à l'heure avec le maire du Porge. Là, c'est une commune où 175 maisons ont été détruites. Et on attend vos témoignages ce matin. Si vous êtes dans la région, si vous faites partie de ces dizaines de milliers d'évacués contraints de dormir sur des lits de camp qui ne savent pas combien de temps ça va durer, venez témoigner au 3216 si vous faites partie de tous ces gens qui sont là juste pour donner un coup de main, pour aider les gens ou même pour venir en aide aux pompiers. On voit que les agriculteurs sont très mobilisés pour apporter de l'eau aux pompiers. Là aussi, on vous attend au 3216 et on lit vos messages sur le WhatsApp RMC, Victor.
Et on recevra aussi le commandant de bord de Canadair, Eric Durand, à 8h40. Et justement, David nous dit, mais pour cette polémique des Canadair, vous savez, tous pas forcément disponibles au pire des moments. Pourtant, David nous dit, j'ai l'impression qu'on ne découvre pas ce problème et que c'était déjà comme ça l'année dernière. Évidemment qu'on posera la question à Eric Durand. On a aussi Christian sur le WhatsApp d'RMC qui, d'abord, apporte son soutien. Je suis tout cœur avec nos pompiers qui donnent leur vie pour nous et qui nous dit, quand va-t-on rendre les extincteurs dans les voitures obligatoires en France, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays, en Belgique, en Pologne ou en Grèce? Selon Christian, ça aurait pu avoir comme possibilité d'éteindre l'incendie de la camionnette de Biscarrosse, hein, comme on en parlait, l'origine de ce feu. Vous êtes nombreux à réagir et on lit tous vos messages sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Il est 7h13 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Et deux témoignages à suivre dans un instant sur RMC. D'abord, Manuel Martinez, qui est le maire de la commune de Marcheprime. On est à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise. Les flammes sont toutes proches. C'est l'une des communes les plus en danger actuellement. On fera le point sur la situation en direct ce matin. Et puis, on sera en ligne avec une habitante d'une commune voisine qui a dû fuir dans l'urgence dans la nuit de samedi à dimanche. Elle va nous raconter son évacuation. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
7h17, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. Les pompiers viennent de passer leur cinquième nuit dans l'enfer des flammes. 42 000 hectares déjà engloutis. On parle désormais d'un méga feu en Gironde qui est toujours loin d'être maîtrisé, même si on nous dit ce matin que la situation a plutôt été stable cette nuit. Bonjour Manuel Martinez.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous êtes le maire de la commune de Marcheprime, commune de près de 6000 habitants, totalement évacuée ce week-end. On est à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux. Vous êtes, vous, tout proche de l'incendie. Les pompiers se battent depuis hier pour sauver votre commune. Quelle est la situation ce matin? Est-ce que vous êtes toujours sous la menace du feu?
La situation est stable. Je vous cache pas que depuis deux jours, on regarde, la première des choses du maire, c'est de regarder les drapeaux et quand on regarde les mâts et les drapeaux aujourd'hui qui ne bougent pas, c'est un très bon signe. Ça veut dire pas de vent et en plus on a eu une nuit un petit peu arrosée d'une pluie entre 23h30 et minuit passé. Donc un taux d'humidité qui vient d'augmenter, les chaussées sont mouillées et donc ça facilite la surveillance nocturne des sapeurs-pompiers et il n'y a pas eu d'évolution durant la nuit, donc c'est une très bonne chose.
J'ai l'impression que c'est la première fois depuis 5 jours qu'on a des bonnes nouvelles.
Oui,
ce matin.
Mais c'est exactement ça. Le front est de cette tâche de 42 000 hectares, cette tâche qui évoluait fortement en s'approchant de l'agglomération et en passant par Marcheprime est stabilisée à l'heure actuelle. Donc c'est rassurant et donc c'est une note positive, première fois qu'on peut parler de choses rassurantes et d'espoir.
Que vous disent les autorités sur la suite? Parce qu'on sait que la canicule revient dans les jours qui viennent, les températures vont remonter, on s'attend à ce que les 40 degrés soient dépassés dans la région. Ça veut dire que c'est aujourd'hui ou jamais, là?
Oui, alors c'était déjà hier ou jamais parce qu'il y avait un front, une tête de feu qui était virulente et accompagnée d'un vent tourbillonnant. Donc c'était une grosse journée. Je discutais avec les responsables des sapeurs-pompiers au niveau de notre base de vie installée à Marcheprime avec les 200 sapeurs-pompiers qui sont au plus près du feu. Donc très grosse journée hier et aujourd'hui, c'est également la même chose vis-à-vis de la température des deux prochains jours qui ne sont pas rassurantes, ces températures qui vont assécher à la fois l'atmosphère et le sol. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut, c'est le jour de tous les combats pour arrêter la progression de l'incendie qui s'approche de l'agglomération bordelaise.
Les moyens autour de vous sont suffisants pour défendre votre commune ?
Alors les moyens sont suffisants, on le verra après quand on fera un bilan, mais les moyens ils sont à deux niveaux. Le premier c'est le combat des sapeurs-pompiers de la DFCI, de la défense de forêt contre l'incendie, qui est à titre préventif à l'arrière du feu pour qu'il n'y ait pas de saute de feu ou de reprise de feu. Et le deuxième combat, c'est celui de nos forestiers, de nos professionnels du BTP qui ont commencé hier matin à créer un pare-feu, c'est-à-dire une ligne où on enlève de la forêt. Et c'est cette barrière qui est réalisée aujourd'hui, depuis donc hier matin, cette barrière à l'ouest, sud-ouest de l'agglomération bordelaise et qui va contenir une hypothétique progression du feu vers Bordeaux.
Et on voit qu'il n'y a pas que les pompiers qui sont au front et que effectivement il y a aussi tous les autres métiers que tout le monde met la main à la pâte pour essayer de contenir cet incendie. Merci beaucoup Manuel Martinez d'avoir été en direct avec nous ce matin, maire de Marcheprime, cette commune de Gironde, donc qui était sous la menace des flammes ces dernières heures, avec donc des bonnes nouvelles ce matin et notamment cette pluie qui est tombée cette nuit. On est en ligne avec Aurore également. Bonjour Aurore.
Bonjour.
Vous habitez la commune voisine de Marcheprime, la commune du Barp, hein, on est dans la même zone. Vous faites partie de ces évacués qui ont dû partir en urgence, hein, puisque l'évacuation a été déclenchée dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. On a reçu sur nos téléphones, vous savez, l'alerte, FR Alerte, qui a fait hurler tous les téléphones de la maison et qui nous demandait d'évacuer du coup le village, sans préciser exactement pour quelle raison, si c'était le feu ou les fumées. Voilà, nous on a procédé sans attendre. J'ai ma fille à la maison, je prends pas de risque avec mon
votre enfant. Fille qui a 9 ans, hein, c'est ça, vous êtes partie en urgence avec elle. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Relativement dans le calme, enfin il n'y a pas eu de panique, déjà parce que ça faisait quelques jours que le feu sévissait. On a vécu ça en 2022. Alors le Barp n'avait pas été évacué en 2022, mais on a quand même vécu deux méga feux entre l'Andiras et la Teste, et nous on était au milieu. Donc pas dans la panique, plutôt dans la sidération. J'avais une valise qui était prête depuis la veille, parce qu'il y avait eu un départ de feu à 2 kilomètres de la maison. Donc je m'étais dit, mais si jamais ils n'arrêtent pas le feu, faudra partir tout de suite. Donc du coup j'avais une valise de prête. On a chargé la voiture. Le plus embêtant, enfin voilà, c'était les animaux, parce que on a quand même, en plus j'avais les animaux de mes voisins que je gardais pour le week-end. Donc
vous avez embarqué tout ce petit monde dans la voiture.
J'ai déménagé une ménagerie pour le coup, parce que je suis partie avec 3 chiens. Et pas des Yorkshire. Donc s'il y en avait un de Yorkshire d'ailleurs, mais sinon les deux autres c'était des gros chiens, 2 lapins et 1 chat.
Où est-ce que vous avez trouvé refuge avec toute cette ménagerie et votre fille?
Étonnamment, ça va surprendre plus d'un. Chez mon ex-mari, avec lequel je m'entends bien. Voilà. Donc, qui habite à Ostens, donc c'est à 2 villages du Barp.
Comment est-ce que vous vivez cette attente, cette incertitude aussi, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer? Et qu'est-ce que vous dites à votre fille? Comment est-ce qu'elle vit ça?
C'est angoissant. Honnêtement, c'est angoissant. Alors il y a ces applications là qui, je sais pas si je peux en citer ou pas, mais bon, qui permettent de suivre un peu l'évolution du feu, et puis on voit les vents, on voit que ça tourne, on voit la progression. Donc, ça fait peur. Là, j'écoutais du coup ce que nous disait le maire de Marcheprime, c'est assez rassurant. Ma fille commençait à parler d'un traumatisme. J'avais ma meilleure amie à la maison qui lui a dit « Écoute, Clément, s'arrête. » et les enfants sont des éponges. Donc, bien évidemment, tant qu'on leur montre qu'on ne panique pas, ils ne paniquent pas. Ouais. Voilà. Donc, elle était...
Mais forcément, à 9 ans, on comprend ce qui se passe.
Oui. Oui, bien sûr. Et puis, on lui a demandé, parce que c'est important pour elle aussi, on lui a demandé de prendre les affaires qu'elle voulait absolument prendre. Donc, et ça fait bizarre, parce que nous, on a évacué dans la nuit. On y retournait le lendemain matin avec ma meilleure amie pour prendre plus d'affaires pour partir, puisque pour le coup on a quitté la région carrément, donc pour prendre plus d'affaires. Et c'est le lendemain que ça fait vraiment bizarre, parce qu'on se dit, je pars, mais je sais pas si je reviens.
Et je ne sais pas si quand je reviendrai, les choses auront changé ou pas. Forcément, il y a cette incertitude, même si à l'heure où on se parle, les flammes sont plutôt pas si proches du bar. Mais on sait que les choses peuvent bouger très très vite. Et forcément, on entend votre angoisse ce matin. Merci beaucoup, Aurore, d'avoir témoigné. On vous souhaite beaucoup de courage avec votre famille et votre fille de 9 ans, Aurore, donc du côté de qui a fui la commune du Barp en Gironde. Merci pour ce témoignage ce matin. Il est 7h25 et c'est l'heure de l'économie.
RMC.
Le chiffre du jour.
Et je salue Emmanuel Lechypre. Bonjour.
Bonjour à tous.
Emmanuel, le chiffre du jour, c'est plus 0,1%. C'est l'augmentation du salaire réel des Français depuis 2021.
Oui, vous connaissez cette maxime célèbre attribuée à Talleyrand. Quand je me compare, quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Eh bien, c'est exactement ce qui vaut pour les salaires en Europe depuis la sortie du Covid. En France, effectivement, les salaires réels, donc les salaires réels, c'est défalqué de l'inflation, c'est votre fiche de paye moins l'inflation, c'est pas le pouvoir d'achat, hein, puisque le pouvoir d'achat, on prend en compte aussi la fiscalité et puis la redistribution sociale, mais ces salaires réels n'ont augmenté que de 0,1% depuis 2021. Bon, autrement dit, ils ont stagné, sauf qu'en moyenne, pour la zone euro, ils ont reculé de presque 2%, nous dit l'OCDE, et c'est surtout l'Europe du Sud qui tire la moyenne vers le bas, alors que les résultats économiques de ces pays depuis plusieurs années sont plutôt bons, hein, bonne croissance, taux de chômage en baisse, mais cette croissance ne profite pas aux salariés, avec une baisse de 6% de ce salaire réel en Italie et 2% en Espagne de baisse. Ce sont les plus mauvais résultats de l'Union européenne. L'Allemagne, qui va globalement elle plus mal sur le plan de la croissance, affiche quand même une hausse de presque 1%. Et alors les pays qui ne connaissent pas la crise, ce sont les pays de l'Est. Plus 30% en Hongrie dans un contexte de manque de main-d'œuvre et de revalorisation du salaire minimum, ou plus 16% en Pologne, le pays le plus dynamique d'Europe aujourd'hui.
Donc comment on explique cette faible progression des salaires et aussi ces écarts?
Alors, eh bien, ces années de vache maigre, elles s'expliquent par un effet de ciseau assez redoutable entre une forte inflation d'un côté, hein, notamment après la guerre en Ukraine, et puis de faibles gains de productivité de l'autre, qui ont empêché les entreprises de revaloriser les fiches de paye. Et puis les différences entre les pays, elles s'expliquent surtout par la structure de l'emploi. En fait, plus il y a d'emplois assez peu qualifiés dans un pays, moins les salaires ont augmenté. C'est le cas de l'Espagne, hein, notamment, où il y a beaucoup d'emplois pas très bien payés dans le secteur du tourisme.
Emmanuel Lechypre, l'économie. On se retrouvera tout à l'heure après le journal de 8h. À tout à l'heure, Manu. Il est presque 7h28 sur RMC. On vous attend bien sûr au 32-16. Si vous êtes en Gironde, si comme Aurore, vous avez dû évacuer votre maison, ou si vous faites partie de tout cet élan de solidarité qu'on voit un peu partout. Il y a ceux qui donnent un coup de main aux pompiers en leur apportant de l'eau ou en leur apportant à manger. Il y a ceux aussi qui se manifestent pour aller aider les sinistrés, pour aller aider les évacuer, pour les héberger. On évoquera tout à l'heure cet élan de solidarité après le journal de 8h. D'ici là, on va faire le point avec le porte-parole de la sécurité civile qui sera avec nous juste après le journal de 7h30.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clément Gouitz. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. RMC vous embarque ce matin dans la lutte contre les incendies. Notre correspondant a suivi sur le terrain les pompiers mobilisés pour combattre les flammes en Gironde. Incendie qui est globalement stable ce matin après plusieurs jours de progression. 220 000 personnes évacuées en Gironde et des incendies qui paralysent les routes et les rails ce matin. Cinquième titre sur le Tour de France pour Pogacar et victoire prestigieuse hier sur les Champs-Elysées de Mathieu Van Der Poel. Les deux coureurs ont fait le show dans l'ascension rue Le Pic à Montmartre devant des milliers de personnes.
On en est à 115 000 hectares ravagés en quelques mois en France.
Le chiffre du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui évoque 30 à 40 feux quotidiens combattus par les pompiers. Un phénomène tout à fait exceptionnel selon lui. Et en Gironde, plus de 42 000 hectares ont déjà brûlé. 2 500 pompiers continuent de lutter sans relâche contre un feu toujours pas fixé. Notre correspondant dans la région, Pierre Bourgès, les a suivis pour RMC.
Lance à la main, ces deux sapeurs-pompiers de Paris tentent de noyer le feu qui progresse vers eux.
Et en gros, après, on vient, on voit comme tout à l'heure, comme on a fait.
Sous leur combinaison ignifugée, ces pompiers étouffent. Je suis trempé en dessous, souffle l'un d'eux. Depuis plusieurs jours, ils combattent sans relâche un véritable monstre.
On n'arrive pas à le contenir, ça devient très long.
Ce sapeur-pompier vient du département de l'Orne en renfort.
La fatigue va commencer à s'installer parce qu'on est là depuis vendredi. Les repos sont pas très récupérateurs, quoi.
Le visage plein de suie. Il revient d'un combat intense contre les flammes après un nouveau départ de feu à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Combat pour l'instant beaucoup trop inégal.
On se bataille pour préserver un massif, et puis d'un coup, un seul retournement, ça repart dans l'autre sens. Et en fait, tout ce qu'on avait protégé, c'est perdu, quoi.
C'est encore pire qu'en 2022, ajoute-t-il. C'est même une mission inédite pour certains, comme pour ce pompier de Moselle.
C'est dur. Pour ma part, c'est ma première vraie campagne feu de forêt. Et c'est vrai que c'est un très très gros feu. Ça va être une guerre qui va être compliquée. Après, on va pas lâcher l'affaire et on va faire notre maximum.
Il va falloir changer de comportement, se désole l'un d'entre eux, qui rappelle que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine.
La situation est globalement stable en Gironde après plusieurs jours de progression, mot de la préfète en ce matin. Mais une course contre la montée députée pour les pompiers avant l'arrivée demain de la canicule. Autre conséquence, des perturbations sur les rails entre Paris et Bordeaux et Bordeaux-Arcachon, TGV et TER annulés. Et sur les routes, la 63 entre Bordeaux et le Pays Basque est fermée à la circulation et de nombreux axes également barrés, comme a pu le constater notre envoyé spécial RMC, Léonie Guilbeault.
On est à Biscarros là, objectif rejoindre Bordeaux sans trop de galères, c'est pas dit, mais en tout cas je suis parée. On n'a même pas fait 3 km, que première route barrée. On va demander aux gendarmes. Bonjour. Excusez-moi, j'essaye de rejoindre Bordeaux, donc là il faut tout éviter. Il faut éviter par où? Il faut éviter par les terres. Ok. Ouais, parce que là c'est tout bloqué. Jeanne et ses amis, eux aussi se retrouvent bloqués.
Là on a eu un message d'alerte extrêmement grave il y a une demi-heure en nous disant que l'autoroute s'était fermée, qu'il fallait évacuer au plus vite à cause des feux. Donc là on sait pas trop quoi faire.
Surtout qu'ils doivent impérativement rentrer à Paris pour le travail et qu'ils n'ont plus d'essence à force de faire des détours.
C'est la merde. Mais bon, on veut pas trop se morfondre. Il y a toujours pire que nous, hein.
Loïc, lui, est en route pour fêter son anniversaire chez sa mère. Vous êtes arrêté là devant
un rond-point, le premier que je pouvais pour checker le GPS. Ça donne une heure de route.
C'est une demi-heure de plus que d'habitude et il va avoir un petit peu de retard, mais il préfère relativiser.
C'est à cause des feux, mais c'est pas grave, on fait le tour.
Et pour ne pas vous laisser surprendre, vous pouvez retrouver toutes les fermetures en temps réel sur le site inforoute-gironde.fr.
Et les activités des colonies de vacances suspendues en Gironde, annonce la préfète. Les touristes sont invités à reporter ou annuler leur venue dans le département et se présent à envisager une autre destination.
Alors du côté des Landes, maintenant l'incendie de Biscarros, lui, est désormais contenu.
Les pompiers toujours mobilisés pour tenter de le fixer. 3600 hectares brûlés, près de 200 bâtiments détruits. Et après des jours d'attente et d'angoisse, 8000 personnes évacuées sur les 30 000 ont pu regagner leur domicile. Et notre envoyé spécial RMC, Lou Garnier, a pu les rencontrer.
3 jours après avoir été évacuée, Lydie, soulagée, retrouve sa maison intacte.
Ça fait plaisir de retrouver les mêmes petites habitudes.
Tout à fait. De retrouver son petit chez-soi.
C'est notre vie, c'est notre endroit où on se sent bien, c'est notre petite forteresse.
Passé le soulagement, elle et son compagnon Laurent ont préparé des affaires au cas où il faudrait repartir.
La première chose que j'ai fait, j'ai pris mon gros sac et j'ai mis plein d'affaires dedans. Du linge, des survêtements, des shorts. Ça m'a marqué de rien avoir. J'avais un short, une paire de chaussettes, une paire de tennis. Aucune affaire.
Dans les rues désertes de Biscarros, les commerces sont fermés. Ce n'est pas un retour à la normale, explique Johan.
À 200 mètres de chez moi, j'ai quand même une zone qui a été sinistrée avec des maisons brûlées. Ça fait évidemment du bien de rentrer chez soi, mais on sait que ce n'est pas terminé. On sait qu'il y a encore des zones qui brûlent. On sait que certains ont tout perdu. On entend encore les sirènes. C'est un retour, mais pas encore complètement serein. Donc ça reste anxiogène.
À Biscarros, plusieurs quartiers de la ville sont toujours interdits d'accès.
Et face à cette situation exceptionnelle, le gouvernement multiplie les réunions. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va présider une cellule de crise interministérielle ce matin. 2 réunions d'urgence avec les acteurs économiques, du tourisme ou encore de l'énergie sont aussi organisées au ministère de l'économie. Objectif, tenter de limiter les conséquences des incendies.
Il est 7h35 sur RMC. Le reste de l'actualité est l'heure de vérité pour Fibre Excellence.
Le tribunal de commerce de Toulouse doit décider ce matin si le fabricant de pâte à papier a encore un avenir ou il se dirige vers la liquidation. C'est le financier Mathieu Pigas qui a formulé une offre et Solène Leroux. Les salariés, eux, attendent le verdict avec angoisse.
Ils attendent impuissants.
C'est pas évident, quoi. On s'imagine toujours le pire.
Le pire, c'est la liquidation judiciaire, tonne Boris. Le chômage, pour lui et ses quelques 700 collègues, 10 000 emplois indirects laissés sur le carreau.
Je suis encore jeune, je peux faire de la route, mais j'ai des collègues qui ont pas loin de 60 ans. Vous allez leur dire quoi de faire une heure de route, là, pour aller faire un métier qu'ils aiment pas?
Un cauchemar, souffle Cédric Bier.
Je ne veux même pas l'envisager. Pour moi, ce n'est pas une solution.
Salarié, père de salarié.
20 ans d'ancienneté à l'usine. Mon fils est dans l'entreprise depuis 3 ans. C'est toute ma vie. Elle fait partie du pays. Elle est ancrée dans l'histoire du territoire, de la Haute-Garonne, de la France.
Des jours qu'ils font le pied de grue devant les tours, devant les cheminées.
Ah oui, jour et nuit, les salariés se relaient jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
Pour nous, certes, dit Cédric Cobert, représentant CGT, mais aussi parce que la mort de Fibre Excellence, affirme-t-il, c'est l'extinction de la filière papier française.
On abandonne une souveraineté industrielle majeure.
Des salariés, syndicats qui se disent lésés, abandonnés par les pouvoirs publics, desquels ils exigent toujours une promesse, une solution de dernière minute.
Le principal suspect de l'attaque de Berlin a été tué hier soir par la police. Cet Allemand d'origine libanaise est accusé d'être l'auteur de l'attaque. La voiture Bélier à l'arme blanche samedi en marge de la Gay Pride. Attaque qui a tué une personne et blessé 29 autres.
7h37 et 2-5 pour Pogacar.
Le Slovène a remporté son 5e Tour de France et rejoint les légendes. Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddy Merckx ou encore Indurain. Un Tour de France 2026 qui s'est achevé avec un passage par Montmartre pour le plus grand bonheur du public.
Les gens sont très accueillants. Franchement, on vient de Paris, mais il y a de la musique. Ouais, il y a fou. Tout le monde s'entend c'est bien. Fou. C'est magnifique. Ouais. C'est ce qu'on aime.
C'est le souvenir des JO, forcément.
C'était la deuxième fois, moi, que je venais. J'ai fait l'année dernière. C'est vrai que l'étape comme ça, forcément, elle est beaucoup plus plaisante, je pense, pour les amateurs de cyclisme et aussi pour le grand public. Ça devrait repasser là tous les ans.
C'était magique. Ça fait des heures qu'on attend. Et là, ils sont passés trois fois. C'était le feu dans la rue. En plus, on a vu les attaques. C'était magnifique.
Ah oui, il faudrait que ce soit, mais que ça reste tous les ans, que ça soit partie du parcours officiel tous les ans. C'est un classique.
Mathieu Van Der Poel a remporté cette dernière étape sur les Champs-Élysées.
Ouais, gros succès, hein, le tour toujours à Montmartre et vous l'avez vécu bien sûr sur RMC. Les courses, le quintet aujourd'hui c'est sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 18h30.
Et le pronostic de la Dream Team, leur favorite est le 6 Belize, leur outsider le 8 Caco.
C'était le journal de Clément Gouiz sur RMC, il est 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on retourne au 32-16, c'est David qui est avec nous. Bonjour David.
Oui, bonjour RMC.
Salut, bienvenue, merci pour votre appel. Vous êtes en Dordogne, vous David, c'est ça, du côté de Périgueux. Et je vois que vous êtes un ancien pompier volontaire. Comment est-ce que vous regardez ce qui est en train de se passer dans le département voisin de la Gironde, pas très loin de chez vous finalement?
Oui, on se voit qu'effectivement, ça a été catastrophique. Les gens sont sur le terrain, sont formidables. Et le dévouement est exceptionnel. Moi, ce matin, je vous contactais RMC, effectivement, parce que j'ai servi aux 10 de la Gironde pendant plus de 10 ans. Qualifié, voilà, feu de forêt, conducteur tout terrain. Et j'ai l'impression que par rapport au feu de l'Andira, déjà... ils n'ont pas pris en compte ces anciens sapeurs-pompiers, vous voyez, que ce soit professionnels ou volontaires, pour aller aider justement sur le terrain.
Vous auriez pu, vous seriez d'accord, là, si on vous appelle, vous y allez?
Ah, mais complètement. Je pense que je ne suis pas le seul. J'ai vu passer sur les réseaux plein de personnes comme moi, plein de profils comme le mien, qui justement seraient intéressés forcément d'aller au contact et aider justement ces sapeurs-pompiers. Sur le terrain, oui.
Et c'est pas possible si vous y allez vous-même ou si vous les contactez, ils vous accepteront pas, vous pensez?
Bah, je les ai contactés sur l'Andiras, ils ont jamais répondu. Je les ai recontactés directement sur leur réseau téléphonique, via mail. Et j'ai jamais eu de retour, hein.
On fait pas appel aux anciens. Voilà l'alerte de David du côté de Périgueux qui se propose d'aller aider anciens pompiers. Merci beaucoup David pour votre appel. On essaiera de poser la question, tiens, au porte-parole de la sécurité civile qui sera avec nous dans un instant pour faire le point sur cet incendie. Le commandant Jérémy Lavergne qui nous rejoint, porte-parole de la sécurité civile. Où en est-on ce matin? On nous parle de pluie et d'une situation stable cette nuit. On va voir si les bonnes nouvelles continuent tout au long de cette journée décisive sur le front des incendies. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Bon réveil et bienvenue, vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story, il est 7h42. Un méga feu toujours hors de contrôle et qui continue de tout engloutir en Gironde. Et la canicule qui fait craindre le pire. Bonjour commandant Jérémy Lavergne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RMC. Vous êtes le porte-parole de la sécurité civile. Je le disais, 42 000 hectares déjà ravagés par les flammes et l'incendie qui se trouve maintenant à une vingtaine de kilomètres de l'agglomération bordelaise. De nombreuses maisons détruites et 220 000 personnes qui restent évacuées sans savoir quand elles pourront rentrer chez elles. Quelle est la situation ce matin sur le terrain, commandant? Qu'est-ce qui vous remonte? Est-ce que vous nous confirmez les quelques bonnes nouvelles qu'on a eues ce matin, de la pluie, une situation plutôt stable cette nuit?
Oui, c'est tout à fait confirmé. Alors, malgré le fait que, bien évidemment, et vous l'avez bien décrit, cette situation est absolument historique de par son ampleur. Sur le front de la lutte et sur le front de la météo, les nouvelles sont un peu plus rassurantes. C'est vraiment à prendre avec beaucoup de prudence et beaucoup de pincettes. Mais en effet, la météo devrait nous aider dans la lutte, au moins aujourd'hui.
De la pluie cette nuit et la météo qui devrait vous aider. Mais pour combien de temps? Parce qu'on sait que la canicule doit arriver, les températures vont remonter dans les quelques jours qui viennent.
Oui, tout à fait. La préfète de la Gironde l'a d'ailleurs très bien dit hier soir. On s'attend à une nouvelle épisode de forte chaleur, de chaleur extrême à la fin de la semaine. Et c'est bien évidemment une très mauvaise nouvelle sur le front des incendies, puisque on le sait, hein, ce cocktail est absolument explosif avec cette vague de chaleur qui pourrait complexifier la lutte sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ces prochains jours sont extrêmement importants pour pouvoir avancer sur le front de cette lutte et de cette maîtrise de cet incendie.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, ce matin, il y a une forme de course contre la montre. Avant que la chaleur arrive, il faut absolument agir très très vite.
J'utiliserai pas ce terme de course contre la montre qui traduirait de la précipitation, mais en tout cas, une chose est certaine, les moyens qui sont déployés sont très importants. Ils l'étaient déjà hier, ils le seront encore plus aujourd'hui. Et de toute façon, il y a vraiment une mobilisation exceptionnelle sur ce feu, que ce soit les forces terrestres et les forces aériennes, pour la partie lutte, et puis il ne faut pas oublier non plus la partie support, la partie soutien, la partie logistique qui permet de pouvoir évacuer ces dizaines de milliers de personnes et assurer aussi que tous ces engins et tous ces pompiers soient opérationnels sur le terrain.
On voit bien que ce feu est parfois imprévisible, se développe parfois très très vite malgré, vous le disiez, de très gros moyens déployés. Est-ce qu'on est dépassé aujourd'hui par ce type de feu, par l'ampleur de ce feu?
Ce feu est très clairement un feu qui est un feu hors norme. Il répond à des logiques géographiques et météorologiques qui sont extrêmement complexes. Et malgré la très importante moyen qui ont été déployés sur les lieux, on l'a vu, il peut connaître parfois des propagations de plusieurs milliers d'hectares, alors même qu'on pensait quelques minutes avant pouvoir le maintenir. C'est extrêmement compliqué, c'est lié à notamment aux conditions météorologiques exceptionnelles.
Ouais. Conditions météo, et puis alors ce type de feu, on a beaucoup entendu parler ce week-end d'orages de feu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce phénomène qu'on n'avait jamais connu en France?
Non, alors c'est un phénomène qui est quand même documenté, qu'on a déjà connu en France, que ce soit dans le sud-est de la France ou même dans le sud-ouest, hein, sur le massif des Landes de Gascogne. Quand un feu devient extrêmement important et avec une conjonction de conditions météo particulières, c'est souvent ce qu'on appelle le feu crée son propre vent, c'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition d'une colonne de fumée qui est très très importante et qui crée un gros nuage de feu, pour simplifier. Et en effet, c'est très problématique parce que ce pyrocumulus, ce gros nuage de feu, va pouvoir créer sur place et au sol des vents qui sont parfois des vents contraires. Et donc pour les pompiers et pour les avions engagés sur le terrain, le sens de propagation peut changer, la vitesse du vent peut changer, et donc c'est ce qui complexifie vraiment les prises de décision sur le terrain. Mais c'est pas quelque chose qui est inédit, c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux, mais qu'on trouve et qu'on retrouve sur chacun des grands feux en France.
Et qu'on connaît dans une ampleur, vous le disiez, exceptionnelle. J'entendais un pompier dire ce week-end, on n'est pas assez nombreux, mais on fait ce qu'on peut parce que c'est la guerre. On a vraiment les moyens de lutter?
En fait, raisonner face à un feu de 42 000 hectares en termes de moyens, on trouve tout de suite la limite de ce raisonnement, parce que on ne peut pas malheureusement multiplier les moyens de manière indéfinie, avoir 100 appareils, avoir des dizaines de milliers de pompiers supplémentaires. Malheureusement, on arrive à un moment, à une limite qu'il est difficile de dépasser. Ce feu est un, est un véritable monstre de 42 000 hectares et donc les moyens sont répartis au mieux en fonction de ceux qui sont disponibles pour pouvoir lutter et protéger la population.
On a un auditeur qui nous appelait il y a 5 minutes, David, qui est lui-même ancien pompier, qui habite dans la région, il n'est pas très loin en Dordogne, et qui disait, mais pourquoi on ne m'appelle pas ? Moi, je suis prêt à venir aider. On ne peut pas rappeler comme ça des anciens pompiers pour les faire venir dans ce type de situation d'urgence ?
Alors, on remercie vraiment David pour son appel et pour sa proposition d'aide. David peut le faire. Hein. David peut le faire. Il y a des dizaines de milliers de bénévoles qui viennent aider, qui viennent soutenir les actions des bénévoles sur les lieux. Par contre, une chose est certaine, David est un ancien pompier volontaire pour répondre à sa question. On ne peut pas habiller, former, reformer l'ensemble de ces anciens agents pour qu'ils puissent aller lutter contre cet incendie. Imaginez le risque qu'en court, et on salue le courage de tous nos camarades pompiers sur le terrain, les risques qu'ils prennent sont extrêmes. Donc, pour tous les bénévoles qui veulent venir aider sur le terrain, bien sûr, le 1033 a d'ailleurs fait un appel spécifique sur son site internet. Il y a tout un tas d'actions, de soutien qui peuvent être faites en base arrière ou au bénéfice de la population. Mais pour la lutte, le danger est tel que ce sont vraiment les sapeurs-pompiers qui se concentrent sur ça. Rappelons qu'on a perdu 3 de nos 2 camarades, dont 2 d'Islande, dans des actions de lutte contre les feux de forêt. Donc, vraiment, les risques qui sont pris sont...
Oui, trois sapeurs-pompiers ouais, qui sont morts effectivement depuis le début de cette saison des incendies. Quel est l'état des forces ce matin? Quel est l'état des troupes? Il y a forcément de l'épuisement. Ça fait 5 jours et 5 nuits là qu'ils sont tous au front.
Bien sûr que l'épuisement et parfois l'abattement peut être au rendez-vous face à un tel incendie. Alors les relèves sont organisées au fur et à mesure sur le terrain pour pouvoir minimiser les temps d'engagement et pouvoir organiser des temps de repos. Il n'en demeure pas moins que face à une telle situation, bien évidemment que la fatigue commence à se faire ressentir. Encore une fois, je souligne et je salue à nouveau l'engagement incroyable de l'ensemble des forces de la sécurité civile. Rendez-vous bien compte, il suffit de regarder les cartes. 42 000 hectares. On a cette tache rouge sur le département de la Gironde qui est absolument énorme. Donc l'engagement et la fatigue sont là, bien évidemment.
Une dernière question, commandant. Est-ce qu'il y a toujours une inquiétude ce matin pour la métropole de Bordeaux ?
Non, les conditions météo... Il y a toujours une inquiétude parce que ce type de crise s'anticipe. C'est la raison pour laquelle on peut le voir dans les médias, on l'a vu dans votre antenne. Il y a un certain nombre de décisions qui se préparent en cas de nouvelles évacuations. Pour autant, la situation est plutôt... rassurante, c'est à prendre avec beaucoup de précautions, plutôt rassurante sur le front de la propagation de l'incendie ce matin, en règle générale, et notamment pour la métropole de Bordeaux. Et je rajouterai aussi que nous avons certes cet incendie en Gironde, mais d'autres incendies sont encore actifs partout ailleurs en France. Donc je rappelle cet appel à la prudence, vraiment auprès de la population, concernant l'observation de règles de prudence.
Merci beaucoup, merci commandant Jérémy Lavergne pour ce point complet en direct ce matin. On comprend que les prochaines heures vont être cruciales puisqu'il y a cette accalmie, moins de vent. Il y a eu un peu d'eau cette nuit, mais on sait que la chaleur arrive dans les jours qui viennent. Merci beaucoup à vous. Il est 7h50 sur RMC. Dans un instant, c'est le portrait du jour, le portrait de Victor Pourchet.
Et on va parler de l'homme qui a pris la photo de l'incendie de Gironde, la plus historique, la plus marquante et aussi la plus controversée.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
7h51, c'est l'heure du bonus RMC avec Charlène Villemer et La Petite Maison dans la Prairie qui cartonne sur Netflix.
Et oui, il y a 50 ans, la France découvrait la famille Ingalls, pionnier américain à la conquête de l'Ouest, devenus les héros de ce feuilleton culte adapté des romans de Laura Ingalls Wilder. 9 saisons et quelques 200 épisodes plus tard, voici une toute nouvelle mouture.
Bienvenue à Indépendance, monsieur Ingalls.
Il n'y a pas encore de bureau de poste, ni église, ni école.
Cette fois, retour aux sources, hein, nous sommes en 1868, 3 ans avant les événements racontés dans la série culte. Paris gagné pour Netflix, 65 millions d'heures de visionnage en seulement 2 semaines après sa sortie. La recette du succès, eh bien une version moins édulcorée, plus réaliste avec des personnages moins lisses et plus nuancés, fidèle finalement au récit originel. Alors côté casting, c'est la jeune Alice Halsey qui semble faire l'unanimité. Elle joue le rôle de Laura Ingalls, plus vive, plus malicieuse que celle qui a marqué toute une génération. Voilà, La Petite Maison dans la Prairie, c'est donc cette nouvelle version signée Netflix et à retrouver sur la plateforme.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Le portrait du jour sur RMC et RMC Story, c'est tous les matins avec Victor Pourchet. Ce matin, c'est celui de l'homme qui a certainement pris la photo de l'année.
Oui, vous l'avez sûrement vu, cette photo de l'agence France Presse de l'incendie de Gironde. On y voit un couple de dos sur la plage, assis tranquillement sur leur transat, les jambes croisées, et en face d'eux, au loin, de l'autre côté de l'étang, le feu qui ravageait déjà la Gironde, son immense panache de fumée qui obscurcit le ciel. Et le lendemain, cette photo inondait la presse française et international, avec à chaque fois en dessous le même nom, Maximilien Lamy.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas photographe.
Ou plutôt, pas photographe pour l'agence France Presse. Il est éditeur pour l'AFP, c'est-à-dire qu'il trie habituellement et sélectionne les clichés. À part ça, il est tout de même membre du collectif Street Photography France. Il était à ce moment-là en vacances à Lacanau avant lui-même de fuir. Et juste avant de fuir, il a dégainé son téléphone donc pour prendre cette photo.
Et Maximilien Lamy a tenu à réagir face aux milliers de réactions entraînée par cette photo.
Ouais, dans l'essentiel de ces réactions est franchement négatif. Les deux protagonistes sont pris pour cible. Ils deviennent le symbole de la fameuse citation de Jacques Chirac.
Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
Et même pire, on l'admire brûler nonchalamment. La question que Maximilien Lamy vous pose dans le journal Le Nouvel Obs, c'est aurait-on vraiment agi autrement ? Il rappelle le contexte, on est sur la place du Moutchik à Lacanau, à cet instant encore loin du feu, pas de danger immédiat. Et sur cette plage, d'autres vacanciers qui pour la plupart poursuivent aussi leur activité. De toute façon, ils ne peuvent rien faire d'autre, dit Maximilien Lamy au journal. Alors on vous pose la question aussi ce matin, auriez-vous vraiment agi autrement ?
Ah ouais, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Nous, est-ce qu'on ne serait pas resté aussi sur le transat ou est-ce qu'on serait allé aider ? Et en fait, on ne sait pas qui est ce couple.
Non, pas
personne
encore.
Ne l'a jamais retrouvé. Bah, ce sera peut-être le portrait de demain. Tiens, on va enquêter. Merci Victor. 7h55 et on part chez vous, dans vos villes.
RMC.
Dans vos villes.
On fait le tour de France avec les reporters d'RMC tout au long de l'été à la rencontre des maires. Les maires qui, on le voit d'ailleurs sur les incendies, sont au front, en première ligne sur beaucoup de sujets. Les maires qui ont été élus ou réélus au mois de mars dernier. Avec ce matin, une question, que se passe-t-il dans les villes conquises par LFI ? Est-ce que les choses changent vraiment radicalement ? On est allé à Creil, dans l'Oise, 36 000 habitants, 8e commune la plus pauvre de France. C'est l'insoumis Omar Yacoub qui a été élu. Cyprien Pézeril, vous vous y êtes rendu pour RMC, vous l'avez constaté, loin des coups d'éclat de certains insoumis. En fait, le maire cherche surtout à incarner le sérieux et la gestion responsable.
Des prises électriques défaillantes, un portail qui ferme mal.
On est venu voir des travaux qui ont été faits il y a quelques jours.
Dans cette école maternelle, d'abord des petits chantiers plutôt que des grands changements. Pour le maire, la France insoumise, Omar Yacoub.
Ça a été ?
Oui, on vient, on a pris des mesures pour ça, on a pris les cotes.
Donc là, on est plutôt content parce que toutes les ampoules sont changées. Il y a toutes les pierres qui vont être déplacées.
Réparées au plus vite et à moindre frais, aussi devant la gare à quelques kilomètres.
C'est des endroits où il y avait des dalles manquantes qu'on a recouvert pour l'instant, avant de faire les grands travaux pour 2027.
Parce qu'Omar Yacoub n'en fait pas mystère, les finances de Creil sont dans le rouge. La faute, assure-t-il, à plus de 100 ans de gestion socialiste, des dépenses de fonctionnement à réduire et les promesses de campagne marqueurs des insoumis, la cantine gratuite, le bus gratuit ne seront mis en place que progressivement.
On a 7 ans pour agir. Sur les mesures structurantes, on a besoin de réfléchir, on a besoin de planifier, de regarder, de budgétiser. Nous, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème financier. La première chose qu'on a vue, c'est qu'on s'est dit, mince, on a une incapacité de déployer tout de suite certaines mesures fortes. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de changer le plus vite possible et en fonction des possibilités.
Aucun renoncement à la radicalité, jure le maire, qui dans le même temps défend la quête du consensus, le sens des responsabilités et le pragmatisme. Pas question, par exemple, de se mettre les policiers municipaux à dos.
Le désarmement de la police municipale, il va se faire progressivement, avec la mise en place de formations, avec de l'écoute. Je ne dis pas que ce n'est pas une de nos priorités, hein, on est en train de caler ça dans le temps.
Et dans la rue, la popularité du maire est incontestable.
Bonjour à vous, monsieur le maire.
Merci, vous aussi.
Mais il y a aussi chez cette habitante un peu d'impatience.
Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui nous a fait, donc on va voir, on attend. Ça fait 3 mois qu'il est là, donc on verra.
Alors Omar Yacoub travaille-t-il à faire de sa mairie une vitrine de ce que serait Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée ?
Un grand bureau comme ça, il n'y a pas beaucoup d'insoumis qui en ont.
On est en train de préparer vraiment notre arrivée dans un très grand bureau. Donc là, pour l'instant, on se contente de celui-ci, mais en 2027,
On va en avoir des bureaux.
Encore faut-il convaincre de nouveaux électeurs pour la présidentielle. Armand n'a pas voté pour son maire, mais le soutient désormais.
J'aime bien mon maire LFI parce que pour le moment, il sort du lot. Il peut compter sur nous pour la prochaine fois.
Et est-ce que LFI peut compter sur vous pour la présidentielle ?
Non, non. LFI, non. Ça, c'est sûr. Surtout pas, non. Ils sont dans le même parti, mais ils n'agissent pas de la même manière.
Et Jean-Luc Mélenchon a pourtant bien l'intention de s'appuyer pendant sa campagne sur les 7 nouveaux maires insoumis. Ils ont d'ailleurs, comme Omar Yacoub, été intégrés à l'intergroupe, sorte de parlement interne de LFI.
RMC dans vos villes, reportage RMC signé Cyprien Pézril à Creil. Dans un instant, on retourne en Gironde, la météo et le journal de 8h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC, c'est Apolline Matin qui continue, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Dans le sud-ouest, le feu est globalement stable ce matin, dit la préfecture. Il n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. Nous serons auprès des évacués qui éprouvent un fort sentiment de lassitude. Mais ce répit ne sera peut-être que de courte durée à cause du retour des fortes chaleurs dans les prochains jours. Et puis il rejoint le club très sélect des quintuples vainqueurs du Tour de France. Le Slovène Tadej Pogacar sacré une nouvelle fois sur la grande boucle.
Charlène nous le disait, les nouvelles de l'incendie de Gironde sont un peu plus rassurantes ce matin.
Il est resté globalement stable cette nuit, annonce la préfecture. Après plusieurs jours de progression, le feu n'est qu'à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. 42 000 hectares partis en fumée depuis mercredi. 220 000 personnes évacuées qui ont passé une nouvelle nuit à Bordeaux, dans le parc des expositions notamment. C'est là qu'on vous retrouve en direct, Inès Zegloul. Inès, auprès des sinistrés qui se réveillent après une nouvelle nuit d'angoisse. Zegloul qu'on retrouvera Inès Zegloul qu'on a retrouvé je crois
Oui, je suis toujours sur le dans le hangar hein, de Bordeaux. Je suis avec Marie-France et Françoise à l'heure du petit déjeuner qui essayent de passer le temps que comme on peut hein, parce que le temps est long. Elles sont là depuis vendredi soir. C'est la troisième nuit que vous passez ici, Françoise.
Oui, troisième nuit.
Un peu fatiguée?
Un peu, non, on est en pleine forme. Parce qu'on arrive quand même un peu à dormir.
Un peu de lassitude peut-être.
Oui, beaucoup de lassitude. Bien qu'on s'organise beaucoup mieux maintenant, parce que malheureusement on commence à prendre nos marques. Et il faut remercier quand même tout le personnel ici, tous les bénévoles qui sont aux petits soins pour qu'on soit au plus confortable, aussi bien physiquement que moralement.
C'est quoi maintenant le plus important, ce qui vous obsède? C'est quoi? C'est de rentrer chez vous?
C'est de rentrer chez nous. Moi, c'est sûr que j'en ai marre là maintenant de rester. Puis voir tout ce monde autour de nous, c'est un peu stressant quand même. Hein.
Vous êtes inquiète pour votre maison? Vous habitez une commune qui a été évacuée?
Parce que le maire de Saint-Aubin a dit qu'on risquait rien à Saint-Aubin, donc on est un peu rassurés. Mais bon, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller.
Et bien, quand je vous ai croisé tout à l'heure, ce qui vous inquiétait, c'était la météo des prochains jours. C'est ça, voilà, en fait, qui vous inquiète?
Oui, tout à fait, parce que pour l'instant, la température est confortable ici. Mais on voit, depuis vendredi, on voit du monde arriver. Alors ça, c'est aussi un facteur d'angoisse, parce qu'on s'est dit, plus ça va, ces gens arrivent, c'est-à-dire plus ça va, le vœu progresse, puisqu'on évacue des gens. Donc là, les jours qui viennent, on appréhende un peu quand même.
Dans les températures aussi.
Oui, tout à fait, oui.
Et peut-être d'ailleurs qu'il faudra prendre son mal en patience, puisque les autorités ici, on le rappelle, ne permettront pas aux évacués de rentrer chez eux avant que le feu ne soit fixé.
Inès Zegloul auprès des sinistrés à Bordeaux pour RMC en Gironde, où les colonies de vacances et les séjours vacances pour personnes en situation de handicap sont désormais interdits. C'est une des annonces de la préfecture ce matin. La situation reste très défavorable. La chaleur des prochains jours pourrait compliquer un peu plus la tâche des pompiers. C'est ce que redoute Jérémy Lavergne, porte-parole de la sécurité civile. Il était invité d'RMC ce matin.
On s'attend à une nouvelle épisode de forte chaleur, de chaleur extrême. Et c'est bien évidemment une très mauvaise nouvelle sur le front des incendies, puisque on le sait, hein, ce cocktail est absolument explosif avec cette vague de chaleur qui pourrait complexifier la lutte sur le terrain. C'est la raison pour laquelle ces prochains jours sont extrêmement importants pour pouvoir avancer sur le front de cette lutte et de cette maîtrise de cet incendie.
Un incendie qui perturbe évidemment beaucoup les transports. Il est indispensable de continuer à limiter les déplacements vers la Gironde et vers les Landes, demande le ministre des Transports. Rachel Sadodine, vous êtes en direct avec nous. Dans la région, la circulation est toujours extrêmement difficile.
Oui, impossible de rallier Bordeaux au Pays Basque via l'autoroute. La 63 est entièrement fermée dans les deux sens de circulation, et ça depuis hier soir. Compliqué aussi de se rendre à Lacanau. Si vous partez de l'agglomération bordelaise, la départementale 6 est interdite à la circulation à partir de Saint-Aubin-de-Médoc. Des routes fermées aussi autour des communes évacuées de Martignat-sur-Jalles, Saint-Jean-d'Illac. La préfecture rappelle que dans tous les cas, il est interdit de se rendre dans ces communes. Et côté train, plus aucun départ ne s'effectue de Bordeaux vers Arcachon, Morsanx, Andaille et Tarbes jusqu'à nouvel ordre. Les trains au départ de Paris n'iront pas plus loin que Bordeaux, et les intercités de nuit entre la capitale et Tarbes sont eux tous supprimés dans les deux sens.
Les précisions côté transport de Rachel Sadodine.
Et on vous attend au 32-16 sur le WhatsApp. SAP RMC 06 12 424 424. Si vous êtes dans la région, venez nous raconter si vous avez été évacué, comment ça se passe pour vous, si vous faites partie aussi de tous ces bénévoles qui viennent donner un coup de main, prêter main forte pour s'occuper justement de tous ces sinistrés, ou pour donner un coup de main aux pompiers. Là aussi, on attend vos témoignages. On reviendra après le journal sur cet élan de solidarité. À 8h06 sur RMC, sachez qu'Emmanuel Macron présidera ce matin une cellule interministérielle de crise.
Ce sera à 10h au ministère de l'Intérieur, consacré directement aux incendies, pendant que deux autres réunions d'urgence seront dédiées aux conséquences économiques de ces feux. Ça se passe ce matin à Bercy, d'abord à l'échelon régional, puis national. Sonia Gobry, service politique d'RMC, ce sera avec les professionnels du tourisme ou encore les assureurs.
Oui, objectif, faire un premier point de situation, identifier les besoins prioritaires, accélérer s'il le faut les dispositifs de soutien. La préfète de la Gironde évoque déjà le recours au chômage partiel pour les entreprises touchées par les évacuations. L'exécutif veut montrer que sa mobilisation est maximale, être sur tous les fronts, anticiper, aller vite, mais sur le terrain, le tempo interroge. L'État est à notre chevet, mais ça va peut-être un peu trop vite, confie à RMC un représentant de la filière tourisme. Difficile, selon lui, d'évaluer précisément les besoins, alors que les incendies sont toujours en cours. Il s'interroge, est-ce de l'affichage ? Non, répond un conseiller gouvernemental, il se défend. En gestion de crise, il faut décider vite, concerter les acteurs économiques, c'est le minimum. Sinon, dit-il, on nous l'aurait reproché.
Sonia Gobry. Et c'est bien au-delà du bassin d'Arcachon que les fumées se propagent, emportées par le vent sur des centaines de kilomètres à la ronde, avec des conséquences évidemment pour la santé. Les seuils d'alerte dépassés dans 4 départements de Nouvelle-Aquitaine selon l'Agence régionale de santé. Et pour y faire face, 2,5 millions de masques FFP2 ont été envoyés dans les pharmacies de Gironde, et ils partent déjà très vite dans cette pharmacie de Bordeaux, Sarah Bélien.
Dans la pharmacie des Capucins, Marie Tournami a reçu 5000 masques rien qu'à la mi-journée hier.
Là, il me reste presque 3000 masques. Si on pouvait nous livrer 5000 de plus dans la journée, ce serait très bien, parce que je pense qu'on ne va pas tenir avec 5000 masques.
Les habitants alentours ont commencé à affluer dans cette pharmacie de garde au milieu de la nuit pour venir chercher leurs masques FFP2 gratuits, car beaucoup sont inquiets pour leur santé, comme Marianne.
Moi, hier soir dans ma chambre, ça commençait un peu à m'irriter, quoi. Moi, j'ai pas de problème, mais je sens l'agressivité, la toxicité du produit.
À peine sorti de la pharmacie, Arthur porte déjà son masque. Asthmatique, il a dû couvrir son visage pour venir jusqu'ici.
J'ai dû le faire avec mon t-shirt. J'ai eu du mal à respirer à plusieurs reprises dehors. Je préfère rester confiné.
Et pour éviter la rupture de stock précoce, la distribution est limitée à un masque par personne et par jour, deux pour celles qui ont des problèmes de santé. De quoi crisper certains.
Et malheureusement, on est obligé de rationner parce qu'il y a beaucoup de situations.
J'ai un souffle au cœur, vous savez.
Sachant que la durée d'efficacité d'un masque est limitée à 8 heures.
Un reportage de Sarah Belien pour RMC. Une fusillade aux États-Unis à Seattle. 2 personnes tuées, 4 ont été blessées, parmi elles un enfant. 2 suspects ont été interpellés, annonce le maire de cette ville du nord-ouest des États-Unis.
8h09, le Tour de France, et Tadej Pogacar qui semble plus inarrêtable que jamais.
Il vient de remporter son 5e Tour de France à seulement 27 ans. Le Slovène à nouveau vainqueur, même s'il n'a pas réussi à s'imposer à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est le Néerlandais Mathieu Van Der Poel qui s'est offert cette dernière étape, mais Tadej Pogacar, un plutôt pas mal lot de consolation, Romain Asselin, il rejoint désormais un club très fermé.
Celui des quintuples vainqueurs du Tour, un record que des légendes du vélo. Deux Français, Jacques Anquetil et Bernard Hinault, un Espagnol, Miguel Indurain, et un Belge, Eddy Merckx. C'est beaucoup d'émotion pour Tadej Pogacar.
C'est un jour incroyable, je n'ai pas trop les mots. Incroyable atmosphère, content que ça soit terminé et d'avoir gagné un cinquième tour. Cinq victoires, c'est quelque chose qu'on n'écrirait même pas dans un livre de comptes.
C'est pourtant la réalité que savoure son patron chez UAE, Mauro Gianetti.
C'est impressionnant, c'est incroyable, c'est un grand honneur d'avoir un immense champion comme Tadej dans l'équipe. Il va revenir sur les tours et on verra quoi. C'est quand même moment de fêter un peu cette victoire parce que 5 tours de France, c'est spécial.
Une question agite désormais le monde du vélo.
Où va-t-il s'arrêter ?
Jérôme Pinault, consultant cyclisme RMC.
Tant qu'il a envie de faire du vélo, il va gagner le Tour de France. C'est un génie du vélo, il domine et il gagne la plus difficile course au monde 5 fois. C'est un gamin qui est talentueux, 27 ans seulement, donc c'est parti pour peut-être 6, peut-être 7. Donc où il va s'arrêter, j'en sais rien, mais il va devenir le meilleur coureur cycliste de tous les temps, ça c'est sûr.
D'ici là, t'as Tadej Pogacar sera peut-être au départ du Tour d'Espagne dans un mois, le seul grand tour qu'il n'a encore jamais remporté.
La rentrée au Paris Saint-Germain, les joueurs reprennent l'entraînement ce matin à Poissy, sauf pour ceux qui étaient en phase finale de la Coupe du Monde, comme l'Espagnol Fabian Ruiz ou encore les Bleus, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, entre autres. Ils ont encore devant eux quelques semaines de repos avant la reprise.
C'était le journal de Clara Gabillet sur RMC, il est 8h10.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et face aux incendies qui continuent de ravager la Gironde, la solidarité s'organise sur le terrain avec par exemple la Croix-Rouge qui est en première ligne sur les évacuations, le secours, l'accueil des sinistrés. Rémi Bécuve, son directeur des opérations en Gironde, sera avec nous dans un instant. Et puis vous allez voir cette initiative d'un expert en numérique et en informatique qui a créé sa propre plateforme pour aider les sinistrés à se trouver un hébergement d'urgence, une mise en relation entre ceux qui peuvent proposer une chambre et ceux qui en cherchent une. Vous allez voir, ça cartonne. Et puis on attend vos témoignages sur cette solidarité sur le terrain en Gironde. On vous attend pour témoigner si vous-même vous êtes volontaire et que vous êtes en train de venir donner un coup de main soit aux pompiers, soit à tous ceux qui s'occupent des évacués. On vous attend au 3216 et on lit vos messages sur le WhatsApp RMC 0612 424 424. À tout de suite.
RMC Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h15, merci d'être avec nous sur RMC et RMC Story. Et on va retourner en Gironde parce que à côté des incendies, il y a aussi de belles histoires et un formidable élan de solidarité envers les évacués, envers aussi les pompiers. Et on tenait ce matin à s'arrêter sur cette solidarité. Bonjour Rémi Bécuve.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des opérations de la Croix-Rouge en Gironde. Quel est votre rôle à vous d'abord, vous la Croix-Rouge, auprès de tous ces évacués? On rappelle 220 000 personnes évacuées dans ce département de la Gironde.
Le rôle de la Croix-Rouge est d'accompagner la préfecture et les mairies dans la protection des populations. Et donc on les accompagne à travers l'ouverture de gymnases qui deviennent du coup des centres d'hébergement d'urgence. Et également dans l'aide à l'évacuation, puisqu'on a des personnes âgées ou porteurs de handicap isolés à domicile qu'il faut aider à évacuer dès lors que les villes sont évacuées. Ou encore des EHPAD, par exemple. On a vu des images où nos équipes allaient dans des EHPAD ou dans des cliniques qui devaient être évacuées pour ramener les populations vers des lieux plus sûrs.
Donc l'évacuation des personnes vulnérables et puis ensuite l'installation des lits de camp, c'est ça l'installation des dispositifs pour accueillir ces personnes?
Oui, voilà, mais l'action de la Croix-Rouge va s'inscrire dans un temps long. Là, on est plutôt dans l'urgence. Et après, on va rentrer dans d'autres phases, mais qui vont arriver dans les prochaines semaines, où après, on accompagnera aussi les populations, mais dans la partie plutôt de relèvement, qu'on peut dire, avec nos Croix-Rouges locales, nos boutiques solidaires, etc., etc., puisque ça va forcément avoir un impact sur un temps long pour les populations.
Oui, un impact psychologique aussi, en termes de traumatisme?
Oui, un impact psychologique, et nos volontaires et nos bénévoles sont évidemment formés à accompagner les populations dans l'écoute aussi des personnes qui subissent ce traumatisme, quitter son domicile sans savoir quand ni comment ils vont pouvoir y retourner, c'est aussi un traumatisme, et donc il y a aussi beaucoup d'écoute auprès des personnes évacuées.
On parlait de cet élan de solidarité, il y a beaucoup de bénévoles un peu partout, vous le ressentez aussi, il y a des gens qui viennent vous voir, comment je peux donner un coup de main?
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'élan de solidarité. Il y a la Croix-Rouge, mais également les autres associations agréées de sécurité civile qui sont à nos côtés et qui travaillent à nos côtés. Mais il y a également la population. Par exemple, le site de vie sur lequel on est, on a les riverains qui régulièrement viennent nous voir, déjà pour savoir si nous on va bien, nous remercier et puis proposer leur aide. Donc voilà, il y a un formidable élan de solidarité. On peut s'en féliciter.
Restez avec nous, Rémi Bécu, parce que justement, on voulait mettre le focus sur l'une de ces initiatives. Bonjour, Benjamin Sonnet.
Bonjour.
Vous êtes, vous, consultant digital à Bordeaux. Et alors, vous avez eu une idée ces derniers jours. Vous avez créé une plateforme d'entraide, c'est ça, pour mettre en relation ceux qui ont besoin de se loger et ceux qui peuvent proposer quelque chose, une chambre ?
Ouais, exactement. Bah, le principe, c'était de pouvoir centraliser à la fois des personnes qui voulaient aider, mais qui savaient pas forcément à qui s'adresser ou comment le faire, et puis bah des personnes qui étaient déplacées, un peu désœuvrées, et qui sont pris en charge par les autorités dans des gymnases ou au parc des expositions, mais qui auraient eu besoin ou qui auraient souhaité être hébergées dans des conditions un peu plus classiques. Et finalement, bah il y a pas mal de monde des deux côtés, et il y avait pas forcément de plateforme pour que ces personnes-là puissent se rencontrer. Donc j'ai effectivement essayé de coder un truc rapidement vendredi pour permettre cette rencontre-là.
Donc vendredi, et depuis, vous avez combien d'offres, combien de visites sur le site ?
Depuis, il y a un peu moins de 20 000 visites et 730 offres au moment où on se parle. Donc ça augmente. Il y a beaucoup effectivement de choses qui se passent, de retours aussi positifs de personnes des deux côtés, à la fois ceux qui souhaitaient aider et qui peuvent le faire grâce à ce système-là, et puis des personnes qui étaient évacuées et qui retrouvent un petit peu plus de calme et de sérénité dans un logement avec d'autres personnes. Donc ouais, ça avance bien. On est plutôt content de pouvoir aider à notre échelle.
Vous savez combien de personnes vous avez réussi à mettre en relation, combien de personnes vous avez réellement hébergées grâce à votre plateforme ?
Non, parce que c'est un système qui est un peu en autogestion, où les gens rentrent en contact directement avec leur hébergeur potentiel, avec différents filtres de sécurité quand même qu'on propose. Mais on a eu quelques dizaines de retours extrêmement positifs. Donc j'imagine qu'il y en a un peu plus que ça, mais j'ai pas de chiffre exact.
Initiative donc citoyenne, vous l'avez fait de façon bénévole. Finalement, vous avez le sentiment de jouer un rôle de service public un peu improvisé?
Ouais, j'essaie d'aider à mon échelle. C'est toujours compliqué parce qu'on se sent tous un petit peu désemparés par tout ce qui se passe. Moi, j'ai quitté Bordeaux un peu avant, c'était prévu, donc je suis pas sur place pour aider comme des bénévoles le font. Et donc, ça a été un peu ma façon d'aider. Certains vont apporter des denrées alimentaires ou vont aider sur place et sont tout aussi utiles. Moi, c'était ma façon d'essayer de collaborer un petit peu à l'effort collectif.
Je reviens vers vous, Rémi Bécuve, de la Croix-Rouge en Gironde. Juste peut-être un mot pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de donner un coup de main. Comment ils font ? Ils vous appellent ? Ils viennent ? Vous pouvez leur proposer des choses pour aider ?
On est assez prudent sur les appels comme ça à bénévolat, puisque après, il faut avoir une grosse capacité pour trier tout ça et s'organiser. Mais c'est vrai qu'il y a déjà plein d'associations qui existent et qui permettent aussi d'être bénévole parfois de manière très spontanée et des bénévoles aussi d'ailleurs éphémères. Et donc du coup, j'invite aussi les personnes à se rapprocher de ce type d'association où un cadre et une organisation existent. Et donc ils pourront aussi se rendre disponible pour ces associations qui pourront les accueillir et les guider vers les actions.
Et effectivement, Victor, sur le WhatsApp RMC, beaucoup de messages justement cette volonté de donner un coup de main, de pouvoir aider soit les pompiers, soit les sinistrés.
Et notamment plusieurs messages qui nous arrivent pour parler des ambulanciers. On a Iliès, on a aussi un message qui n'est pas signé. Puis on a un message de l'association des transporteurs sanitaires dans la Loire et qui nous explique qu'à 19h, il y a 9 ambulances, 18 ambulanciers, compris la direction de la Gironde. Voilà, pour aussi ne pas oublier ces professionnels qui sont là pour transporter les personnes et les évacués qui auraient besoin de ce type d'ambulance.
Merci à tous les deux. Rémi Bécuve, directeur des opérations de la Croix-Rouge en Gironde. Je remercie également Benjamin Sonnet. Donc c'est vous qui avez créé cette plateforme dont je vais quand même donner l'adresse entraide-hébergement.versel.com.
app. On remettra ça sur sur rmc.fr si vous voulez retrouver donc cette plateforme qui met en relation ceux qui ont besoin d'un hébergement et ceux qui peuvent en proposer un. Et puis je vous signale aussi qu'RMC s'associe au Secours Populaire pour venir en aide aux sinistrés de ces incendies. Donc on vous invite à soutenir l'action du Secours Populaire. Vous pouvez adresser vos dons directement sur le site du Secours Populaire ou par la poste à l'antenne de votre département. Il est 8h22, l'économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre et plusieurs sites économiques particulièrement sensibles sont proches de Bordeaux et sont sous haute surveillance à cause des incendies.
Oui, Bordeaux, c'est l'une des métropoles les plus riches en industrie stratégique de pointe de France, hein, quatrième pour le numérique, deuxième pour les industries de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. Et à ce titre, elle compte de nombreux sites potentiellement exposés à la propagation des incendies à l'ouest de la ville. Alors, il y a Ariane Group qui dispose de plusieurs sites dans des communes déjà évacuées, hein, deux à Saint-Médard-en-Jalles ainsi qu'un au Hayan. On retrouve aussi à Saint-Médard et dans ses environs une implantation de Roxel France. C'est une filiale de MBDA spécialisée dans les moteurs pour missiles, ou encore des sites de Dassault, de Safran, de Thales, à Barpe également évacué. Le site sensible du commissariat à l'énergie atomique est aussi majeur, avec notamment le laser mégajoule qui vaut plusieurs milliards d'euros.
Ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces sites sont bien protégés ?
Oui, alors des experts et des moyens de lutte contre le feu ont déjà été déployés pour la sécurité de ces sites industriels. Plusieurs entreprises ont engagé des travaux autour d'un certain nombre de sites sensibles pour créer des pare-feux et pour supprimer toute nappe végétale. Certains sites se sont déjà mis quasiment en sécurité en faisant évacuer les matières qui posaient problème. Le laser mégajoule, lui, il est à bonne distance de la forêt, protégé par des zones non arborées. Au-delà de ces sites, il faut rappeler qu'il y a quand même plus de 15 000 entreprises qui sont concernées par les zones brûlées et les zones évacuées. Et une première réunion se tiendra à 9h à Bercy entre les acteurs locaux et les ministres de l'économie et du commerce pour faire un premier point sur la situation.
Allez, on termine comme tous les jours par les chiffres des prix de l'énergie.
Alors, petite détente à la sortie du week-end avec le gazole à 2,20, c'est juste 6 centimes de plus quand même qu'il y a une semaine. Le samplon 95 en revanche baisse un petit peu, moins 1 centime sur la semaine. Le pétrole, grosse détente, de 100 à 92 dollars le baril, puisqu'on a plutôt des bonnes nouvelles sur d'éventuels accords de paix entre l'Iran et les États-Unis. Et puis le gaz net détente aussi, hein, on est retombé à 57 euros le mégawattheure. On était monté à 63 en fin de semaine dernière.
Bon ben voilà, enfin quelques bonnes nouvelles. Ça faisait quelques jours qu'on n'en avait pas sur le front des prix de l'énergie. Allez, à 8h24, on vous a gardé le meilleur d'Arnaud Demange tout l'été.
Dites donc, Apo.
Ouais.
Qu'est-ce que j'apprends pas ?
Quoi.
Je lisais les cahiers du cinéma hier. Vous allez devenir actrice ? Eh oui. Apo va jouer dans Baron Noir, la série de Canal+.
Ouais.
C'est une nouvelle carrière qui commence. J'espère que vous aurez un César pour ce rôle.
Ah bah j'espère aussi.
Remis par Dominique Besnéard lui-même. Chers amis, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce César du meilleur espoir féminin à Apolline de Malherbe, merveilleuse, radieuse, pour son rôle d'Apolline de Malherbe. Là, j'ai jamais vu quelqu'un jouer Apolline de Malherbe aussi bien qu'Apolline de Malherbe. Alors, Apo, j'ai un projet à te proposer.
Oui.
Alors, c'est disruptif, hein. Attention, c'est pas Baron Noir, c'est un projet pakistanais.
Oh.
C'est une métaphore de la crise du détroit d'Hormuz et ses futurs palmes d'or à Cannes. Tu jouerais une gardienne de puits dans une steppe désertique en Azerbaïdjan qui surveille un puits désaffecté après l'AVC du précédent puisatier interprété par Jean-Jacques Bourdin. Chaque matin, tu vas au puits, tu t'assois, tu tournes une valve et tu regardes cette eau qui ne coule pas. Alors tu interroges, mais cette fois du regard intérieurement, le monde et l'absurdité bureaucratique. Tout ceci dure 23 ans et un jour, une fonctionnaire du ministère de l'économie américaine. Alors pour la jouer, j'ai pensé à Edwige Chevrillon de BFM Business,
oui.
la femme frontale directe, en même temps la femme fleur, la femme fruit. La fonctionnaire t'annonce: notre gouvernement veut rouvrir le puits et le contrôler. Alors, tu ne réagis pas, mais imperceptiblement, quelque chose s'est fissuré.
Ah oui.
Et tu développes une relation silencieuse avec le vide du puits.
Oui,
tu lui parles sans mots et le vide ne répond pas.
Ah.
Mais par moments, il semble respirer.
Ah,
tu poses
bon.
Alors ta première question. Pourquoi ? Et après, on se doute, il y en aura beaucoup d'autres. Ça s'appelle le détroit intérieur, celle qui veillait sur l'eau absente. Tu vas cartonner.
Moi,
je veux voir ça.
C'est quand même...
Dimanche que vous vous retrouvez quand vous voulez sur l'appli RMC, sur rmc.fr en podcast. Allez, dans un instant, un nouveau journal, la météo, bien sûr, avec Charlène, et puis un témoignage après le journal, celui du maire du Porche. C'est cette commune particulièrement sinistrée. 175 maisons détruites, c'est 20% des habitations de la ville. Paysage de désolation. On sera avec le maire juste après le journal. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h30.
RMC, Apolline Matin.
Clément Gouitz pour un nouveau journal. Bonjour Clément.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Des nouvelles enfin encourageantes ce matin en Gironde. L'incendie qui a parcouru 42 000 hectares est globalement stable ce matin après plusieurs jours de progression. La journée s'annonce décisive pour les pompiers avec l'arrivée de la canicule demain. L'attente interminable des sinistrés de l'incendie du Var. Ce feu qui s'est déclaré mardi dernier dans le secteur de Cotignac n'est toujours pas fixé. Et bilan en demi-teinte pour les coureurs français sur la grande boucle.
Enfin, un peu d'optimisme ce matin en Gironde.
Pour la première fois depuis le départ de l'incendie, mercredi, les autorités font état d'une évolution favorable. Et Rachel Sadodine, vous êtes en direct avec nous ce matin. Les nouvelles données par la préfecture sont donc rassurantes.
Oui, pour reprendre les mots exacts de la préfecture de la Gironde ce matin, la situation a resté globalement stable au cours de la nuit, sans évolution majeure à signaler. Et vous le disiez, Clément, c'est la première fois en 5 jours qu'aucune progression majeure du feu n'est donc à noter, et ça grâce à des conditions météorologiques favorables. Elles ont été en cours cette nuit. C'est ce qu'expliquait ce matin le maire de Marcheprime sur RMC, Emmanuel Martinez.
Pas de vent, et en plus on a eu une nuit un petit peu arrosée, donc un taux d'humidité qui vient d'augmenter, les chaussées sont mouillées, et donc ça a facilité la surveillance nocturne des sapeurs-pompiers, et il n'y a pas eu d'évolution durant la nuit, donc c'est une très bonne chose.
Malgré ces bonnes nouvelles, la préfecture rappelle aux habitants évacués qu'ils ont interdiction de rentrer chez eux pour le moment, et déconseille fortement tous les déplacements entre Bordeaux et les Landes, afin de ne pas gêner le travail des pompiers.
Rachel Sadodine. Et la préfecture qui interdit les colonies de vacances en Gironde et les séjours vacances pour personnes en situation de handicap. Les touristes sont invités à changer de destination. Et les pompiers entament une course contre la montre aujourd'hui en Gironde. Charlène Villemer, la météo s'annonce défavorable dans les prochaines heures.
Oui, notamment avec cette canicule qui est attendue dès demain. Alors, baisse d'intensité et changement de direction pour le vent aujourd'hui dans le nord-sud et puis vers l'ouest, ce qui est encourageant pour éloigner les flammes de la région bordelaise. Les fumées, elles sont toujours bien présentes. L'épisode de pollution aux particules fines se poursuit. 11 départements du sud-ouest sont en alerte rouge aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est donc cette nouvelle canicule qui arrive dès demain. Elle sera beaucoup plus courte cette fois-ci. 34 degrés sont attendus en Gironde demain. Le pic de chaleur, lui, il est prévu pour mercredi. Le thermomètre pourrait atteindre les 40-42 degrés près de la Garonne. En clair, il reste une fenêtre d'environ 36 heures pour noyer les 120 km de lisière et puis fixer les feux avant le retour des très fortes chaleurs.
Charlène Villemer, on respire donc mal dans 4 départements de Nouvelle-Aquitaine. Les seuils d'alerte aux particules fines ont été dépassés, annonce l'Agence régionale de santé. 2,5 millions de masques ont été acheminés depuis samedi dans les pharmacies de Gironde.
Et puis dans le sud-est, cette fois, ça brûle toujours aussi dans le Var.
L'incendie qui s'est déclaré mardi dernier n'est toujours pas fixé. 4500 hectares ont été parcourus par les flammes et de nouveaux départs de feu ces dernières heures. Et les sinistrés, eux, ne s'attendaient pas à voir cet incendie durer aussi longtemps. Justement, notre correspondante RMC, Anna Jojard, les a rencontrés dans une piscine municipale de Barjol, transformée en centre d'accueil.
Le téléphone de Mélanie, évacuée depuis vendredi, vient de sonner.
Ma sœur est en train de me dire que les camions de pompiers, comme ils sont enfin arrivés, ils ont pu stopper les feux à ras de la maison.
Si sa maison est sauvée, pour l'instant, ce n'est pas le cas de la bergerie de sa mère, détruite par les flammes.
Il y a des chèvres qui ont été sauvées, d'autres qui n'ont pas été sauvées. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar.
Un cauchemar qui dure depuis près d'une semaine.
Nous, chez nous, on voyait un panache de fumée au Bessillon. Mais on s'est dit, ça va faire comme l'année dernière, un feu qui va abîmer notre montagne. Mais en fait, non, ça perdure. Ça perdure et ça se propage.
C'est anxiogène. On ne sait pas comment on va retrouver notre maison. C'est très, très, très dur.
Dans la salle d'accueil, la fatigue se mêle à l'angoisse. Une habitante explose en larmes. Elle sera prise en charge par des bénévoles. Solange Donna est adjointe à la mairie de Barjol.
Il faut savoir les écouter, les réconforter, les rassurer. Et puis de leur dire, ne vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer chez vous dès qu'on a le feu vert.
Un feu vert que certains confient ne pas vouloir attendre, prêts à braver les interdictions pour aller voir l'état de leur maison.
Deux hommes interpellés dans le Var, soupçonnés d'avoir volontairement provoqué des départs de feu, notamment à Olioul et à Toulon. 115 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, chiffre du ministre de l'Intérieur Laurent Nunes. Et le gouvernement multiplie aujourd'hui les réunions de crise. Les professionnels du tourisme, de l'énergie, encore les assureurs, sont invités au ministère de l'Économie. Objectif, préparer la réponse économique face à ces incendies d'une violence exceptionnelle. Philippe Seguin, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Bordeaux-Gironde.
Moi, ce que je vais demander à Bercy, c'est une aide de solidarité exceptionnelle pour notre département, parce que c'est du jamais vu ce qu'on est en train de vivre, et c'est pas fini. J'ai demandé aussi à ce qu'il y ait un élan de solidarité de l'ensemble du réseau des chambres de commerce de France. C'est sûr qu'il va falloir mettre de l'argent sur la table pour éviter des drames économiques sur notre territoire. Je vais activer tous les leviers possibles, et je lâcherai quand j'aurai reçu d'argent.
Et Emmanuel Macron va présider à 10h une nouvelle cellule de crise interministérielle à Beauvau.
Il est 8h35, c'est l'heure du bilan pour les coureurs français sur la grande boucle.
Pogacar a remporté son 5e tour et côté français, le bilan est plutôt mitigé. Aucune victoire cette année, mais 3 coureurs dans le top 10, Kevin Morand.
Oui, et la tête d'affiche Paul Sexas, à la fois le plus attendu des Français tout en étant le plus jeune au départ, termine au pied du podium pour son premier Tour de France.
J'ai pu batailler pour le podium jusqu'à l'arrivée et c'est quand même déjà une belle réussite. Forcément, c'est un peu en deçà de mes ambitions. Faut gérer beaucoup plus de choses que sur les autres courses. Mais j'ai appris aussi que j'en étais capable. C'est normal que j'ai encore de la marge de progression.
Derrière Sexas, Lenny Martinez prend lui la 5e place. Initialement, il ne courait pas pour le classement général, mais plutôt pour une victoire d'étape ou le maillot à poids.
Pour moi, c'est un tour au-delà de mes attentes. J'aurais jamais pensé faire top 5 sur un Tour de France. Moi, je regardais le Tour à la télé à l'époque et pour moi, c'était impossible. C'est un niveau tellement élevé.
Deux Français placés donc. En revanche, c'est seulement la 3e édition de l'histoire du Tour. Après 1926 et 1999, sans aucune victoire d'étape tricolore, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France.
Il n'y a pas de victoire d'étape française, mais deux Français dans les 5 premiers. Ça n'est pas arrivé depuis 2014. 3 Français dans les 10 avec Jordan Jegat. Ils ont été là, il leur a manqué parfois pas grand-chose pour gagner une étape.
Ce Tour aura donc été celui des promesses pour les jeunes tricolores. Alors que les punchers Julien Alaphilippe, Kevin Vauclin et Romain Grégoire étaient trop en méforme pour s'illustrer.
Et le Belge Van Der Poel a remporté hier cette dernière étape sur les Champs-Élysées.
Le quintet, c'est sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville à 18h30.
Le pronostic de la Dream Team, leur favori est le 6, Belize. Leur outsider est le 8, Caco.
C'était le journal de Clément Gouiz sur RMC. Il est 8h37 et on continue de lire tous vos messages sur le WhatsApp RMC avec Victor et beaucoup de messages liés aux incendies.
Et beaucoup de messages de félicitations. On a Jean-Louis qui nous dit bravo aux agriculteurs pour leurs actions auprès des pompiers. Bravo aussi aux commerçants et aux bénévoles qui se mobilisent. Anthony nous dit, justement, déjà soutien à nos voisins landais et bordelais. Et pourquoi pas accorder un congé exceptionnel à ceux qui prennent du temps sur leur repos pour pouvoir aider les bénévoles. Et puis on a Mario qui nous dit, moi je suis ouvrier paysagiste dans le Gard, c'est moi qui fais tous les travaux de mai à juillet pour débroussailler, pour faire en sorte que les chemins forestiers soient en bon état, pour éviter qu'il y ait trop de dangers. Et bien maintenant, même moi, j'ai interdiction de le faire, le risque est trop grand, risque d'incendie dans le nord du Gard. Et on continue à lire vos réactions sur le WhatsApp RMC au 06 12 424 424.
Surtout qu'on sait que l'incendie en Gironde est parti justement de travaux de débroussaillage qui se trouvaient sous des lignes à haute tension. C'était Victor Pourchet. Le WhatsApp RMC 0612 424 424 si vous voulez nous écrire. 8h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Suivre les pompiers au plus près des flammes avec notre correspondant Pierre Bourgès. Un reportage long format, ce sera le choix de la rédaction. Et puis nous serons en ligne avec le maire de la commune du Porge, commune sinistrée qui s'est retrouvée au cœur des flammes au point que plusieurs dizaines de maisons ont été détruites. C'est 20% des habitations qui sont parties en fumée. Le maire qui a pu retourner sur place témoigne dans un instant sur RMC. A tout de suite.
RMC. Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
Il est 8h41 et vous êtes bien sur RMC. Situation stable sur le front des feux en Gironde. C'est les bonnes nouvelles de la matinée avec un peu de pluie tombée cette nuit. Pour autant, le feu est encore loin, loin d'être maîtrisé. Alors nous avons pu suivre les pompiers qui redoublent d'efforts au plus près des flammes. Ils sont désormais 2500 sur place. C'est Pierre Bourgès, vous qui êtes notre correspondant en Gironde. C'est vous qui avez embarqué avec eux pour RMC.
Lance à la main, ces deux sapeurs-pompiers de Paris tentent de noyer le feu qui progresse vers eux.
Et en gros, après, on vient, on ne fait comme tout à l'heure, comme on a fait. On rentre, on ressort, on se décale, on rentre, on ressort.
Okay. Et juste derrière eux, un tractopelle façonne des tranchées pour empêcher l'avancée des flammes. Objectif des pompiers, tout faire pour que le feu ne traverse pas cette route qui mène à marche prime, le tout sous le regard attentif de leur capitaine.
Là, ce que je veux, c'est vraiment d'arroser un petit pont qui se passe au-dessus. D'accord, parce que si ça part au-dessus, t'as les fils, on peut plus l'arrêter.
Dans ce paysage déjà brûlé, presque lunaire, la chaleur de l'après-midi réactive certains foyers. Juste à côté, une boule de fumée explose, laissant apparaître d'immenses flammes qu'il faut tout de suite attaquer.
Didier, ouvre en prolongé !
Sous leur combinaison inifugée, ils étouffent. Je suis trempé en dessous, souffle l'un d'eux. Depuis plusieurs jours, ils combattent sans relâche un véritable monstre.
On n'arrive pas à le contenir, ça devient très long.
Ce sapeur-pompier vient du département de l'Orne en renfort.
La fatigue va commencer à s'installer parce qu'on est là depuis vendredi. Entre les fumées, la chaleur, on essaie de tenir et puis les repos sont pas... très récupérateur, quoi.
Le visage plein de suie, il revient d'un combat intense contre les flammes après un nouveau départ de feu à une trentaine de kilomètres de Bordeaux. Combat pour l'instant beaucoup trop inégal.
Ce qui est un plus embêtant, c'est qu'on se bat, on se bataille pour préserver un massif, préserver. Et puis d'un coup, un seul retournement, ça repart dans l'autre sens et en fait, tout ce qu'on avait protégé, c'est perdu, quoi.
C'est encore pire qu'en 2022, ajoute-t-il. C'est même une mission inédite pour certains, comme pour ce pompier de Moselle.
C'est dur. Pour ma part, c'est ma première vraie campagne feu de forêt. Et c'est vrai que c'est un très très gros feu.
Ça va être une guerre qui va être compliquée. Après, on va pas lâcher l'affaire et on va faire notre maximum.
Ah c'est la première fois que je vois ça. Moi.
Partage également l'un de ses collègues.
J'essaie un peu de stress, un peu de... désolation parce que c'est quand même de la végétation.
Il va falloir changer de comportement, se désole l'un d'entre eux qui rappelle que 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine.
Reportage RMC signé Pierre Bourgès au plus près des flammes avec les pompiers de Gironde. Et nous sommes en ligne ce matin avec le maire de l'une des communes les plus meurtries, c'est la ville du Porche. Bonjour Martial Zaninetti.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Le Porche, 3500 habitants. 175 maisons détruites, c'est 20% des habitations de votre commune. On a pu voir des images ce week-end, ce sont des images de désolation, presque des images de bombardement, j'ai l'impression.
Oui, la situation est effectivement catastrophique. Malheureusement, le chiffre de 175 est passé à 183.
183.
183 avec le recensement que nous avons fait ce matin.
Comment est-ce que vous vivez ce retour dans la commune? Comment est-ce que vous avez vécu ce retour et cette découverte de ces images et de ces dégâts?
Alors pour ma part, comme je ne suis pas parti depuis 4 jours, donc je ne suis pas revenu sur la commune, donc on l'a vécu avec l'ensemble des équipes sur le terrain. C'est un paysage qui est catastrophique, qui est lunaire, qui est gris, qui est étouffant, qui... voilà.
On va décrire d'un mot pour ceux qui n'ont pas vu les images qu'on voit actuellement sur RMC Story, mais il y a certaines maisons où il ne reste absolument rien. Parfois il reste un mur, parfois il n'en reste même pas.
Oui, sur les 183 maisons que je vous ai données, ce sont des maisons totalement détruites.
Racontez-nous le moment de l'incendie. Comment est-ce que ça s'est passé? Vous étiez, j'imagine, au plus près avec les pompiers. Il y a un moment où les pompiers vous disent « ça ne sera pas possible, on abandonne ».
Oui, il y a eu plusieurs épisodes avec le CODIS, le poste de commandement, où au démarrage du feu, les avions ont mis un peu de temps à arriver. Ensuite, le feu a pris une direction, une tournée, et finalement, en l'espace de 24 heures, il a complètement encerclé la collectivité. Toute la partie périphérique de la collectivité est partie en fumée.
Alors, les habitants avaient bien sûr évacué avant. Est-ce que vous êtes toujours en lien avec eux? Est-ce que ceux dont la maison a été détruite ont été prévenus?
Oui. On a communiqué sur nos réseaux effectivement l'ensemble des adresses correspondant aux maisons qui sont parties en fumée.
Qu'est-ce qui va se passer pour eux maintenant? Est-ce qu'ils vont pouvoir être accompagnés?
Bien évidemment, on est en train de mettre en place tout un dispositif à la fois avec le département et nos partenaires pour accompagner nos administrés dans cette épreuve.
Quel type d'accompagnement? Il va falloir les reloger?
Bien évidemment, on est en train de travailler sur le relogement. Toutes les cellules psychologiques également sont en place. Et puis, on est en train de mettre en place des approvisionnements pour des vêtements, pour les besoins de première nécessité, parce que beaucoup ont tout perdu.
Ils ont absolument tout perdu. Ils sont partis eux-mêmes dans l'urgence. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour eux de revenir sur place, constater les dégâts, ou c'est toujours trop dangereux?
Alors pour l'instant non, c'est pas possible. La situation n'est toujours pas maîtrisée. On a eu l'avantage d'avoir un petit peu depuis cette nuit. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'hydrométrie, donc ça se stabilise. Par contre, ils annoncent pour demain, sur deux jours de la canicule et un vent d'est, donc les choses vont repartir. Donc ça reste toujours dangereux et c'est toujours pas complètement maîtrisé. Donc tant que pas à maîtriser, il faut qu'ils restent là où ils sont, à l'extérieur du village pour l'instant.
Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. On a une pensée évidemment pour tous vos administrés et pour vous qui avez été sur le pont pendant plusieurs jours et qui l'êtes toujours face à cette situation de désolation totale sur votre commune du Porche. Merci monsieur le maire Martial Zaninetti en direct avec nous. Il est 8h48 sur RMC et dans un instant, cette question: a-t-on vraiment les moyens de lutter? Pourquoi la France n'a pu compter ce week-end que sur 5 à 7 de ces canadairs alors qu'il y en a 12 normalement? On va essayer de comprendre pourquoi cette flotte vieillissante, pourquoi la maintenance pose des soucis avec le commandant Éric Durand qui est lui-même pilote de Canadair. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin. RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Sébastien Krebs.
Il est 8h50 et vous êtes bien sur RMC, RMC Story. Bonjour Éric Durand.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile. Vous êtes vous-même commandant de bord de Canadair. Je le disais, ce week-end, la France n'a pu compter que sur 5 puis 7 de ces 12 Canadair. Pourquoi on n'arrive pas à tous les avoir mobilisés dans ce type de situation? Comment on peut expliquer ça à nos auditeurs?
Ben, on peut l'expliquer très simplement. Il y a de la maintenance qui est, il y a à la fois de la maintenance qui est nécessaire sur ces avions, comme sur les autres avions d'ailleurs de la sécurité civile, parce que il faut bien comprendre que les vols que réalisent ces avions sont très très éprouvants pour les machines, et du coup, des fois on revient avec des pannes, les systèmes sont mis à rude
épreuve. Commandant, juste un petit... Pardon, je vous interromps. Essayez de vous rapprocher peut-être de votre téléphone, parce qu'on vous entend
très bien. Très
vous
m'entendez mieux, là.
Quand vous vous en éloignez. Voilà, très bien. Très proche du téléphone. Donc, oui, la maintenance, les pannes, vous disiez, une flotte qui est vieillissante, c'est ça le fond du sujet?
Non, c'est pas vraiment le fond du sujet. J'entends beaucoup dire effectivement que la flotte est vieillissante. Vous savez, les Canadairs, ils ont en moyenne 30 ans. Mais finalement, si vous regardez n'importe quelle autre flotte utilisée dans le monde de l'aviation, 30 ans, c'est pas si vieux pour un avion. Et le nombre d'heures de vol de nos Canadairs, il est pas si monstrueux non plus que ça. C'est juste que, en fait, la maintenance doit être réalisée correctement. Et aujourd'hui, par exemple, sur le peu de disponibilité que nous avons aujourd'hui, vous en avez encore deux qui sont en maintenance hivernale parce que, ben justement, notre mainteneur n'a pas su sortir ses avions à temps pour la saison feu. Donc déjà, vous en enlevez deux voilà, qui sont en maintenance hivernale. Et ensuite, sur les autres, vous avez les pannes.
La maintenance hivernale qui a lieu au mois d'août, au mois de juillet en l'occurrence, c'est quand même un problème.
Oui, tout à fait. C'est exactement le problème. Voilà.
Et qui est dû à quoi?
Ben, qui est dû à des retards, de sortie dans le calendrier de sortie présenté par l'industriel. Donc c'est une société privée. Il y a une feuille de route qui a été signée justement pour que tout soit respecté au mieux entre la direction générale de la sécurité civile et la direction de cette société qui s'appelle Sabena Technics. Mais en fait, la feuille de route, ben, pour l'instant, elle n'est pas respectée. Donc du coup, ben, voilà, on se retrouve avec un manque de moyens nationaux. Alors bon, ça a été compensé par des moyens de location, par l'appel aux autres pays européens qui sont venus en masse nous aider. Donc c'est très très bien. Mais
ça
la
veut
base,
dire que sans la solidarité européenne, aujourd'hui, on serait incapable de faire face ?
Ben, sans la solidarité européenne, on serait incapable de faire face, exactement.
Est-ce qu'on paye le fait d'être dépendant d'un constructeur qui est étranger ? On rappelle que ces Canadair sont fabriqués par un industriel canadien. Il n'y a pas de constructeur en Europe, c'est ça aussi le problème ?
Alors, ben, la certitude, c'est que De Havilland Canada, finalement, a le monopole sur les bombardiers d'eau amphibie. En gros, il n'existe que le Canadair aujourd'hui capable de répondre à une attaque de masse sur un feu de forêt. Il y a quelque chose qu'il faut bien, relever. Hein. Pour éteindre un feu, ou du moins aider les pompiers à l'éteindre, il faut amener une masse d'eau énorme. Et aujourd'hui, dans le monde aéronautique et sur le monde des bombardiers d'eau, finalement, si le plan d'eau pour pouvoir écoper est très très proche, il n'y a que le Canadair qui sait faire ça. Voilà.
Donc, alors vous parlez de effectivement, masse énorme, il y a un monopole. Il y en a un qui peut transporter une masse encore plus grande de d'eau ou de produits retardants, c'est l'A400M qui a été déployé pour la première fois ce week-end dans ce rôle-là, avec un dispositif adapté pour pouvoir lui faire transporter et répandre du retardant. C'est donc l'A400M, c'était samedi. Est-ce que ça change vraiment la donne ?
Alors oui, ça va changer un petit peu la donne, parce que mine de rien, tous les moyens qui pourront être apportés pour larguer de l'eau ou du retardant seront forcément les bienvenus. Disons que ça peut changer la donne à condition qu'il soit utilisé convenablement, ce qui pour l'instant n'a pas été le cas, puisque en fait il faut bien savoir que l'utilisation de la 400M, ça a été fait dans l'urgence. Donc l'équipage n'a pas été formé au travail du feu de forêt. Nous qui sommes, moi je fais partie des bombardiers, des pilotes de bombardiers d'eau, il faut environ 4 ans pour former un commandant de bord sur bombardier d'eau. Donc vous imaginez bien qu'un équipage d'un 400M, en une semaine, il peut pas apprendre le métier. Du coup, pour qu'il puisse travailler, on est obligé de construire une bulle aéronautique rien que pour lui à l'endroit où il largue. Et pendant que cette bulle travaille, eh bien, le reste du travail se fait moins bien ou ne se fait pas. Donc vous voyez, en fait, l'efficacité du concept, pour l'instant, elle est très très limitée. Alors j'imagine que ça va venir, parce que il va continuer ses largages et petit à petit on va arriver à se coordonner. Mais c'est pas le moment de faire de l'expérimentation. Là, il faut laisser les gens dont c'est le travail, il faut les laisser travailler, parce qu'on est professionnel du feu de forêt, on sait exactement ce qu'il faut faire, et pour ça il faut nous donner les moyens. Et aujourd'hui, les Canadair, eh bien, on les a pas encore tous.
Et, voilà. Et vous nous disiez également que la grande différence aussi, c'est que la 400M, pour aller recharger, évidemment, il est obligé d'aller se poser, contrairement au Canadair qui lui fait des rotations beaucoup plus rapides, puisqu'il récupère de l'eau directement sur un point d'eau très proche.
Ben c'est exactement ça. Vous voyez, un A400M, là, c'est 20 tonnes de retardants qui sont largués à peu près, pour l'instant, je crois, une fois par heure. Un Canadair, une rotation de deux Canadair sur les feux de la Gironde, par exemple, ben, en fait, en une heure, ils vont larguer 120 tonnes d'eau. Vous voyez ? C'est pas du tout le même ratio, quoi. Donc il faut bien s'imaginer que pour lutter contre un feu comme ça, il y a pas 36 solutions, il y en a qu'une. Il faut lancer le maximum d'eau en un minimum de temps. Voilà.
Et donc les Canadair sont extrêmement précieux, c'est ce que vous nous redites ce matin, et ceux qui nous manquent effectivement font vraiment vraiment défaut. Commandant Éric Durand, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour toutes ces précisions. Il est 8h56. Dans un instant, le journal de 9h, et puis vos grandes gueules, les GG qui sont là tout l'été. Très belle journée et à demain.